dans ce live où je reçois Maxime. Maxime, est-ce que tu vas bien?
Très bien, salut, bonjour à tous.
Donc dites-nous si la technique est au point, si vous nous voyez, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous dire si il y a un problème de son. On nous dit le son déjà. Vas-y, parle encore.
Alors là, je parle, je
Moi,
ne sais pas, c'est toujours
dites-nous
le
si c'est un
plaisir du
problème
live.
d'équilibrage ou quelque chose, mais je pense que le son sort de nous deux. Donc, est-ce que vous allez bien le chat où vous êtes déjà 18? 18, mais ça ne va faire que grimper. Hein. Il y a un peu moins de monde hein, depuis que c'est plus aussi régulier et depuis que ce n'est plus le soir aussi. Hein. C'est sûr que ça change pas mal de choses. Alors, Maxime, peut-être une petite présentation rapide pour ceux qui ne te connaissent pas.
Yes, donc je m'appelle Maxime, je suis belge, je ne sais pas pourquoi je commence par ça. Je suis donc juriste et philosophe à la base. Alors je suis prof, toujours enseignant à l'université de Louvain en Belgique. Je tiens surtout une chaîne qui s'appelle Philoxime sur YouTube, où je parle de philopolitique et d'éthique du climat, que j'ai lancé il y a quelques années, et voilà, et où j'ai récemment publié une vidéo sur l'espoir et le désespoir, petit guide philosophique pour écologistes désespérés, et qui a apparemment attiré ton attention.
Yes. Alors on demande UCL ou KUL?
UC Louvain. Il y avait eu une tentative de supprimer le C, poussée notamment par mon promoteur de thèse, et soutenue par pas mal de profs, mais à l'époque le rectorat n'avait pas voulu. Donc parce que en fait c'est une université catholique, mais qui n'a plus beaucoup de liens à part le nom, la tradition et tout ça, avec le enfin, voilà, qui n'est pas la même chose qu'une université catholique dans pas mal d'autres pays, et qui n'est certainement pas une université dirigée par l'Église.
Ok, et pour ceux qui viennent de ta chaîne, moi je sais pas s'il y en aura. Donc moi je fais de la vulga sur les questions, notamment climatiques, et on a déjà collaboré sur plusieurs vidéos tous les deux.
Et oui, tout à fait. On a déjà fait une grosse collab, en tout cas, hein, qui nous a pris quoi, un an et demi.
Qui a bien traîné, ouais. Qui a bien traîné sur la tarification du carbone, sujet qui nous a pas mal occupé. On avait fait ça avec Gilles aussi. Et avant ça, on avait fait une vidéo un peu plus courte sur la Convention
Et oui.
citoyenne pour le climat.
C'est vrai, c'était même ma première collab.
Et, ah, quel
YouTube,
honneur, quel honneur, quel honneur.
oui. C'était Monsieur Fick qui avait fait jouer les entremetteurs, si je me souviens bien.
C'est.
Et
Oui. Alors, pas sur ce sujet en particulier, mais j'avais demandé à Monsieur Fille pourquoi il n'avait pas de vidéo sur Rawls, je pense. Comment tu dis, le philosophe?
Rolls, oui.
Parce que moi, c'était un philosophe dont on avait parlé un peu quand j'avais fait mes cours sur l'environnement en Norvège, notamment cet exercice-là du voile de l'ignorance. Et
Le
du
voile
coup, je trouvais
d'ignorance.
ça intéressant pour des questions écologiques. Et il m'avait dit, ah, mais j'ai rien là-dessus, mais tu en avais déjà à l'époque. Et donc, j'étais tombé sur ta chaîne. La première fois que j'ai découvert ta chaîne, c'était grâce à Monsieur Phi. Et je me rends compte que le chat est pété, en plus du compteur de vues. Donc, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre.
Ah
Attendez,
oui.
je vais essayer de réparer ça. Mais sur Twitch, on ne voit pas le chat. Donc voilà pour la petite présentation. Rime le match dit, je me rappelle de cette collab sur Twitch. J'avais mis le temps de préparation sur les collègues. Ah, on te voit plus, on voit ton écran, je pense. C'est bizarre ça.
Ah oui, c'est très étrange ça. Toujours le plaisir des lives. Donc,
On
je
t'entend
vais.
encore. Au pire, tu rouvres un
Oui.
écran, mais.
Au pire, je rouvre un écran.
Et on
Bon.
me dit que j'avais mis le temps de préparation sur les collègues. Bah, ça aurait été très peu aimable de ma part de faire ça. Je vais essayer de réparer le chat en live, sinon c'est pas très grave. Et on va essayer de retrouver Maxime.
Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Alors attends, hop.
Je ne sais pas non plus. Si tu vas sur
Et donc.
l'onglet qui te permet de streamer, est-ce que tu peux changer ce que tu montres dans
Ah
les
oui, je sais ce que
paramètres?
j'ai dû faire. Je sais ce que j'ai dû faire.
Paramètres vidéo source, remettre ta caméra. Sinon, faut me l'enlever.
Très étrange. Très étrange. Voilà,
De
formidable.
retour parmi nous.
Hé
Alors,
hé.
Cette vidéo sur l'espoir. Déjà, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce sujet
Ouais, c'est un truc comme d'hab, hein, ça fait partie de ma liste interminable de sujets à faire et de trucs qui me trottaient pas mal en tête. Moi, enfin, comme toi aussi, j'imagine comme beaucoup de monde qui suit un peu ces sujets sur les questions environnement, climat et tout ça, j'ai toujours été frappé par à quel point sur les questions stratégie militante, les gens ont tous une idée très précise de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment un truc. Non, non, moi, je sais que pour convaincre les gens de passer à l'action, il faut leur donner espoir, il faut qu'ils gardent espoir, etc. Ou au contraire, on avait le discours inverse, au contraire, l'espoir qui serait un truc anesthésiant, etc. Et au contraire, il faut leur parler de fin du monde, d'effondrement. Et il y a un peu ces deux discours, quoi. Il faut espérer ou il faut désespérer les gens et leur parler d'apocalypse. Et donc moi, ça m'a toujours un peu frappé comme, ben, en fait, genre, ces deux approches, enfin, voilà, je suis pas psychologue, je suis pas expert en psychosocial, mais c'est une question empirique, quoi, qui se règle. Et donc, c'est bien que les militants aient leur idée de ce qui marche ou pas, mais quand on est auteur, sur la question, ben oui, c'est bien de se pencher un peu sur la littérature empirique pour savoir ce qui effectivement est le cas. Donc ça, c'est un petit moment que je voulais faire. Et puis, bah oui, ici, j'avais aussi un collègue qui m'avait recommandé un livre d'un auteur qui s'appelle Darrell Mollendorf, qui finalement avait, c'était le titre, c'était Mobilizing Hope. Et puis finalement, le petit Solopio, il parlait pas tellement d'espoir dans son bouquin. Donc, je me suis farci le bouquin, mais pour finalement pas tellement l'utiliser dans la vidéo, mais ça m'a servi de porte d'entrée, et notamment un autre article de cet auteur, et puis d'autres trucs dans la littérature philosophique sur l'espoir. Et voilà, et je me suis dit, et puis j'en ai parlé aussi du coup avec Jean-Loup Fourquet, notre ami commun, qui était assez motivé pour traiter ce sujet-là aussi. Et donc, on s'est dit, bon, allez, enfin, c'est un peu lui qui m'a du coup peut-être. Pousser, forcer à enfin faire cette vidéo, sinon elle serait restée sur ma liste encore pendant quelques mois, quelques années. Donc c'est bien, merci Jean-Loup.
Et après, tu vois, tu dis chez les militants, il y a souvent une conviction très forte que leur action est la bonne et la seule à mener. Mais il y a un biais de sélection là-dedans. C'est que quand on parle à des militants, on parle aux personnes les plus engagées. Et pour être autant engagé, il faut effectivement croire très fort que ce qu'on fait est utile, quoi.
Oui, c'est clair. Mais chez les militants, et pas seulement les militants, hein, même chez des climatologues, des scientifiques, des auteurs, des journalistes, etc., souvent quand même, on va avoir, sur ces questions en particulier, de qu'est-ce qui marche, pense aussi à une autre question, hein, mais les réactions générales des gens sur les actions de Just Stop Oil et compagnie, sur le truc asperger des tableaux, les Van Gogh avec de la compote de pommes ou de la purée de tomates ou je sais plus quoi. Les réactions en général sur les réseaux sociaux, mais les gens étaient tous s'écharpaient parce que les gens étaient tous convaincus de savoir exactement quelles allaient être les conséquences de cette action, quoi. C'était clair. Et en fait, enfin, oui, mais c'est pas clair, quoi. Je veux dire, c'est des questions qui s'évaluent pas juste au petit doigt, quoi. C'est des questions. Compliqué quoi de savoir comment est-ce que faire une action choc comme ça a un rôle salvateur d'attirer l'attention sur la question est-ce que au contraire ça dessert plus la cause qu'autre chose pour moi c'est des questions empiriques compliquées
Et là-dessus, ouais, est-ce que tu es sûr, par exemple, que ta chaîne, ça a un impact positif? T'as jugé empiriquement de ça?
Oui, non, mais c'est ça, mais je dis bien,
ou
normal
la
après
mienne,
que.
hein, la question se
Tu
pose,
dis?
ou la mienne de chaîne, hein, la question se pose également de mon côté, évidemment. Hein.
Ouais, non, bien sûr. Mais je dis pas qu'on doit tous soi-même, évidemment, avant d'agir ou de faire quoi que ce soit, avoir fait une revue de la littérature empirique sur la question. Mais si on prétend parler en tant qu'auteur ou vulgarisateuriste sur ces questions, ben oui, c'est quand même bien un peu d'avoir un peu d'humilité épistémique sur ces trucs et de bah, mesurer l'étendue de en fait à quel point sur ces questions on balbutie encore quoi. Donc on n'est pas totalement sûr de quelle est la bonne stratégie. Mais on sait quand même certains trucs, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la vidéo, quoi.
Et après la bière qui nous écoute, donc Jean-Loup qui nous écoute dit merci à toi. Et du coup, ça m'a une question, c'est pourquoi Jean-Loup? Pourquoi pas quelqu'un de plus sérieux à la... Non.
Le pio.
Donc
Mais
une
salut à
vidéo sur
Jean-Loup.
ta chaîne, une vidéo sur la chaîne de Jean-Loup qui nous écoute. Ah, Rime Le Mage demande, ce sont des études internationales ou occidentales? Mais t'en parles un peu dans ta vidéo, ça aussi.
Oui, je réponds là-dessus ou
Tu peux.
d'abord j'aimerais répondre, je vais répondre dans un instant, mais j'aimerais quand même défendre la réputation de ce pauvre Jean-Loup.
Le pauvre, il peut pas.
Non, mais alors pourquoi lui? D'abord parce que, enfin moi, j'ai trouvé que c'était un mec super intéressant quand j'ai rencontré un truc de YouTuber. Du coup, avec une culture incroyable, il a lu énormément de trucs, il a plein de références, il a toujours une référence super intéressante sur n'importe quel sujet. Ah oui, ça me rappelle tel auteur, tel machin. Et il est surtout sur un sujet qui, dans une autre vie, était un peu mes sujets de recherche quand j'étais plus chercheur en éthique du numérique, au plus proche en tout cas, et qui est donc la question de l'éthique des algorithmes de recommandation, des réseaux sociaux, etc. Et voilà, je me rappelle de l'importance, notamment en suivant son travail et en voyant l'actualité, en voyant, enfin encore récemment, là, en Roumanie. La justice qui a annulé l'élection présidentielle, tout le processus d'élection présidentielle à cause de manipulation de l'élection via les réseaux sociaux et via TikTok en particulier par le candidat d'extrême droite. On peut penser à X récemment, etc. On peut penser à plein de cas dans l'actualité et les de Science for All le montrent aussi, quoi, dans ces dernières semaines de manipulation de nos régimes démocratiques. Et notre débat public par les réseaux sociaux. Et donc le travail notamment de Jean-Loup d'Après la bière ou de Lay de Science for All là-dessus est quand même super important. Et donc j'avais envie de l'inclure là-dedans, quoi.
C'est beau, c'est beau. Je sais pas si un jour on fera ce genre d'éloge pour moi. Et
Bon,
ouais,
je peux
et
faire
répondre rapidement
un
ouais,
éloge
sur la
pour
question
toi aussi.
des études
Oui.
internationales ou occidentales. Et j'en profite pour dire, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y aura pas de chat visible à l'écran. Donc désolé notamment à la rediffusion.
Pourrait écrire plein de choses en sachant que
Ça ne
vous ne serez
s'affiche pas.
pas immortalisé.
Mais je les
Voilà.
vois, mais je les vois.
C'est ça, vous pourrez dire des choses méchantes à Rodolphe. Ouais, donc les études empiriques sur la question, en fait, c'est essentiellement des études, on peut dire, occidentales, issues de pays du Nord. Le gros de ces études même, c'est des trucs qui sont dont les sujets sont souvent des étudiants et souvent d'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un gros biais de cette littérature empirique. C'est que en fait, ben oui, ça peut pas du tout être représentatif de l'ensemble évidemment des humains qui peuplent cette planète. Et donc ça, je le mentionne dans la vidéo, il faut bien le rappeler. On ne peut pas faire tirer des conclusions générales sur ce qui pousse ou pas les humains à agir ou pas, ou le rôle de l'espoir à partir de ces études-là, parce qu'en fait, les humains sont très différents, ont des cultures très différentes, ont des contextes politiques très différents, ouais, on a un nombre d'études assez limité, l'ordre de quelques dizaines, quoi. Donc, en tout cas, que j'ai recensé.
Ok, alors Wamgi nous dit coucou à tous. Il y a un très bon rapport qui est sorti sur le sujet des Luc écolo en novembre, principalement réalisé avec le chercheur Gaëtan Reynaud. On apprend surtout que toutes les stratégies sont complémentaires et vont toucher différents publics. L'idée générale est qu'il faut surtout s'unir, échanger et soutenir les différentes actions.
Yes, mais je suis assez d'accord avec ça. Hein. C'est l'idée aussi de convergence des luttes, des tactiques, etc.
Et
Effectivement.
ouais, donc une vidéo sur ta chaîne, une vidéo sur la chaîne de Jean-Loup après la bière. Déjà, on peut parler peut-être rapidement de la vidéo de Jean-Loup. Comme ça, il est encore là pour nous écouter et il pourra rectifier au cas où. Est-ce que tu saurais la résumer rapidement?
Eh ben oui, donc Jean-Loup du coup présente sa vidéo sous la forme un peu de petit récit de son parcours. Donc Nos titres se renvoient l'un l'autre. La mienne, c'était guide philosophique pour écologistes désespérés. Et le sien, c'est guide pratique pour militants désespérés. Et ben, c'est un peu un témoignage de son parcours. Alors, je vais sans doute zapper certaines parties et très mal résumer ça. Mais essentiellement, donc, il a eu une phase d'épiphanie quand il s'est rendu compte des enjeux environnementaux, etc. Quand il est, comme beaucoup d'entre nous, hein, sans doute sorti un peu du déni sur ces sujets qu'il a été conscientisé, quoi. Et puis, il est passé par peut-être une forme de radicalisation qui le poussait à avoir un des envies de recourir à des stratégies militantes extrêmement polarisantes, extrêmement dogmatiques, en fait, hein, cette idée qu'une fois qu'on est quand on est hyper convaincu, quand on est militant, mais on a envie que tout le monde ouvre les yeux et que les gens comprennent enfin la vraie façon de voir les choses. Et donc voilà, et on s'étonne que, très étonnamment, les gens ne sont pas forcément réceptifs à ce genre de façon de leur imposer notre vision des choses. Après ça, il est passé par une phase de fatalisme pseudo-éclairé.
Ouais,
Enfin, je trouvais ça
défaitisme,
intéressant.
doumisme, quoi.
Oui. Oui, mais doumisme, une certaine forme de doumisme, en fait, qui est liée à, au fond, c'est trop compliqué. Espèce d'idée qu'on peut avoir parfois, qui est que on est dans des systèmes tellement complexes la réalité, le monde dans lequel on vit, ils sont tellement complexes à appréhender que comment est-ce qu'on peut prétendre savoir par quel biais agir ou du coup intervenir, etc., etc. Du coup, une espèce de à quoi bon, quoi. Donc, il n'est pas non plus. Je pense pas qu'il soit tombé. Il nous détrompera dans le chat dans un doumisme, genre on est foutu, genre complètement effondriste. Mais en tout cas, quand même une sorte de fatalisme. Enfin voilà. Donc, il décrit les différentes phases par lesquelles il est passé. Et puis, du coup, la façon. A eu d'en sortir. Ah oui, c'est ça. Donc, il a eu sa phase doumiste complet. Il
Mais il n'en parle pas dans
les
la
a.
vidéo.
C'est ça. Mais donc, par contre, si vous voyez, quand vous regarderez la vidéo, vous verrez donc ce qui lui a permis de sortir par le haut de ces différentes périodes-là et d'espérer en toute connaissance de cause. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Moi, il y a plein de trucs qui me parlent quand je lis son témoignage, notamment les discussions avec des amis autour d'un barbecue, des amis avec qui on partage tout, avec qui on partage plein de valeurs et tout ça. On est entre gens convaincus par la même chose, et pourtant, en fait, on se rend compte que ouais, il y a un gros décalage. Sur à quel point ça impacte ta vie, à quel point voilà, c'est une préoccupation au jour le jour, ou bien voilà, on pense plus, je sais pas, prêt hypothécaire, maison, chien, enfant, etc. Enfin, voilà, qui sont tout un tas de préoccupations tout à fait importantes dans la vie de plein de monde, évidemment. Mais ouais, un espèce de décalage sur amener le sujet, quoi. Et arriver à dire oui, mais le climat au milieu de tout ça. Donc ouais, je trouvais que c'était
Ouais, évolution
très.
qui parle à mon avis à pas mal de gens, peut-être même à une partie du chat. Évidemment, il y a quelques jugements moraux ici. Tu dis sortir par le haut de sa phase doumiste. Les gens qui sont dans une phase doumiste ou convaincus qu'il n'y a rien à faire, ils vont trouver que, au contraire, maintenant on se ment à nous-mêmes et on se voile la face. Mais c'est vrai que même quand on avait commencé à faire ces lives avec Loïc, c'était un peu en réaction à ces discours-là, surtout quand ils sont démobilisants, quoi. Surtout quand ils mettent dans une posture où, devant la gravité des enjeux environnementaux ou devant la complexité du système, on a l'impression qu'on peut rien faire, quoi. D'ailleurs, il y a un Discord, hein, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse, qui est un peu derrière le live et où on discute de temps en temps de ces sujets. Donc moi, la vidéo de Jean-Loup, elle m'a parlé aussi, hein, parce que j'ai eu une trajectoire un peu similaire. Et moi aussi, je suis passé par un moment où vraiment, je pensais que l'effondrement, il était déjà là, quoi, on était en train de le vivre, quoi. Mais bon, le temps est passé et il tarde à se manifester. Donc ça me parle pas mal. Et après, il y a une... Là, je sais pas, on était à la moitié de la vidéo. Il y a une deuxième moitié de la vidéo où il parle des questions de ce qu'il appelle les futurs adjacents, qui est cette possibilité de d'ouvrir vers d'autres futurs et d'avoir des luttes qui finalement fait une petite modification dans le système et permet d'aller vers quelque chose, d'ouvrir quelque chose. Et c'est plus facile de réfléchir à ça, de réfléchir à, voilà, nous, avec ce qu'on fait sur notre chaîne, qu'est-ce qu'on essaye de montrer, vers quelle direction on va, qu'est-ce qu'on essaye de produire un peu comme possible, un peu différent, que d'imaginer avoir réglé entièrement la question du changement climatique. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça aussi. Mais...
Bah oui, c'est ça, oui, c'était la partie que je laissais dans le teaser pour les gens qui voudraient regarder cette vidéo, mais tu viens de la spoiler, c'est très bien. Non, non,
Moi, c'est la partie que je trouve le plus intéressante. Ouais. Ça vaut le coup d'être regardé.
Ah non, c'est hyper intéressant. Moi, je dirais que j'ai pas eu de phase doomiste. Ça, c'est voilà, c'est mon biais à moi. J'ai eu une phase de déni, une grosse phase de déni entre. J'ai eu la période de mes études où j'étais conscientisé, j'étais. Enfin, plutôt très conscientisé, je pense, etc. Et puis, il y a eu un moment où j'ai cru, quand j'ai commencé à travailler, à être dans mes sujets de recherche qui étaient assez du coup, différents, j'ai cru que c'est bon, je savais assez de choses sur l'enjeu climatique. Et je n'avais pas vraiment de. Enfin, moi, je me disais que ça risquait de tourner mal, mais je me suis un peu éloigné du sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que. Voilà, 5 10 ans plus tard, j'étais plus du tout à la page et que le problème était beaucoup plus grave que ce que je pensais. Et là, j'ai eu une grosse prise de conscience, bah, notamment grâce à une rencontre aussi. C'est souvent comme ça qu'on est amené à changer de perception sur pas mal de choses. Mais ouais, donc, mais j'ai jamais eu de phase où voilà, jamais cru en l'effondrement, j'avoue.
Alors,
Peut-être que j'aurais tort.
Glycine Max nous dit bah, l'effondrement de la biodiversité, on est dedans. Alors, c'est vrai qu'on est dans une érosion sévère de la biodiversité. Après, si on veut avoir une sixième extinction de masse, il faut quand même y rester quelques temps. Hein. On peut encore faire des choses. Mais la réduction des populations, c'est certain que c'est une réalité scientifique. Et OMG
Oui, mais c'est
dit les
ça.
politiques et les médias actuels n'aident clairement pas. Franchement, il faut plutôt voir du côté de ce qu'on peut faire entre citoyens et au niveau local. C'est beaucoup plus facile pour commencer. Ça crée des liens avant de pouvoir plus grand. D'un point de vue individuel. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est souvent des rencontres qui permettent d'évoluer sur ces questions, quoi. Ah, on a un
Oui,
raid de
les...
tout ce qu'on prend. Attends 2 secondes. Je salue les personnes qui nous rejoignent. 45, c'est pas mal, hein, ça va nous faire un peu de monde. Donc je salue les personnes qui nous rejoignent. Ici, on parle d'espoir avec Philoxime, enfin Maxime de la chaîne Philoxime. Et je te rends la parole.
C'est toujours, toujours amusant de voir comme les raids sur Twitch sont toujours quand même quelque chose d'extrêmement pacifique et extrêmement bienvenu. Mais ouais, l'effondrement de la biodiversité, bien sûr. Donc c'est toujours un peu la difficulté sur ces sujets, sur l'effondrement, c'est qu'est-ce qu'on entend par le terme. Et évidemment, moi, quand je parle d'effondrement, je parle d'effondrement de nos systèmes sociaux, etc., un peu dans le sens visé par Servigne et Stevens. Mais il y a toujours aussi des difficultés parce que pour moi, enfin, l'effondrement, ça implique quelque chose quand même d'assez abrupt et quelque chose, un moment où le système ne fonctionne plus, quoi, et ça arrive de manière assez précipitée. Et puis, mais maintenant, de plus en plus, on parle d'effondrement lent, graduel, etc. J'ai pas mal de mal aussi. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de concepts qu'il faudrait clarifier, quoi, dans ces trucs-là.
Ok, et en parlant de clarifier des concepts, donc ta vidéo porte
C'est
sur
vrai.
l'espoir. Est-ce que tu peux nous définir rapidement l'espoir?
C'est vrai, oui, rapidement, parce que un truc que j'ai trouvé quand je me suis plongé dans cette littérature philo, c'est que les philosophes souvent aiment bien discuter, en particulier la littérature analytique, discuter et débattre des définitions et des concepts et être dans un truc purement conceptuel, quoi. Donc ça, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait trop. Donc, mais heureusement, sur cette question-là, pour une fois, il y avait quelque chose comme ce qu'on appelle une définition standard de l'espoir. Donc, je me suis précipité sur cette définition standard et réjoui de dire que j'allais pas devoir commencer en montrant mon fameux gif d'Astérix de la bagarre dans le village gaulois. Et donc, l'espoir, du coup, dans cette définition standard en philo, c'est trois choses. C'est d'abord désirer quelque chose, hein, donc, et c'est le croire possible, même si on n'en est pas certain. Hein, donc ça, c'est les deux éléments de la définition standard, c'est désirer quelque chose et le croire possible, même si on n'en est pas certain. À ça, et c'est là qu'on sort un peu du consensus, certains ajoutent qu'il y a une dimension pratique à l'espoir et que pour dire qu'on espère, il faut pouvoir dire que, eh bien, on intègre cet espoir dans nos plans et projets. On table sur la chose qu'on espère, quoi. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste un jugement intellectuel. C'est voilà, j'espère que on va arriver à résoudre à limiter les impacts catastrophiques du réchauffement climatique. Et j'agis en fonction de ça. Et je planifie ma vie, etc., en fonction de cet espoir, quoi.
Donc ça veut dire que je peux pas dire par exemple j'espère que d'autres vont régler le problème du changement climatique.
On peut dire ce qu'on veut, hein. Les philosophes ne vont pas. J'ai eu quelques commentaires un peu dans ce sens-là. Il y a évidemment un sens commun de l'espoir. Et il y a plein de trucs qu'on peut dire, j'espère qu'il fera beau demain, etc. Des trucs sur lesquels on est complètement là, on est vraiment absolument impuissant. Mais l'authentique espoir, celui qui est important d'un point de vue philosophique, hein, c'est pas juste espérer qu'il fera beau demain, c'est l'espoir qui implique la gentilité humaine. Et dans lequel on peut soi-même avoir maille à partie, quoi. Donc, et qui peut impliquer effectivement le fait du coup de tabler là-dessus, quoi. Mais il y a pas mal de confusion aussi avec. Enfin, on entend hein, beaucoup de gens utiliser espoir pour optimisme ou bien espoir en fait pour quelque chose de en fait qui s'avère qu'on appellerait un vœu pieux, hein. Les gens qui critiquent les naïfs qui espèrent je vois que on se marre bien
Oui,
dans le chat
je
dans
lis
ce
le
cas-là.
chat. Ah, c'est que Lula dit, et si on dit j'espère que tu vas bien, est-ce qu'on est obligé d'être prêt à agir pour aider la personne à aller bien?
C'est ça, oui. Mais oui,
Sinon,
donc il y a eu.
d'un point de vue philosophique, c'est hypocrite.
C'est ça. Mais oui, donc, après, j'espère que tu vas bien si on pourrait justifier que si on a les moyens de faire quelque chose pour aider la personne et qu'on dit j'espère que tu vas bien, oui, c'est quand même vachement hypocrite. Je sais pas, dire j'espère que tu vas bien à un SDF dans la rue et puis passer son chemin, quoi. Mais en tout cas, voilà, donc il y a ces trucs, donc il y a l'espoir qui est caricaturé en optimisme. Hein, les gens qui espèrent, c'est des gros naïfs. Les gens qui espèrent, pardon, je sais plus parler, c'est des gros naïfs qui voient la vie en rose, etc., et qui sont biaisés vers un dénouement positif, quoi. Et donc ça, c'est pas le cas. On peut avoir de l'espoir tout en étant pessimiste. Donc on peut penser que la chose qu'on espère est pas la plus probable. Hein. Elle a une possibilité et une probabilité minimale d'arriver, hein. C'est pas non plus un truc, un rêve, mais c'est pas la plus probable. Donc on est pessimiste du point de vue de l'intellect, mais malgré tout, on espère que c'est ce dénouement-là qui arrive. C'est la fameuse citation de Gramsci, je suis pessimiste. Alors lui, il va confondre pessimisme et optimisme, attention, trigger warning, je suis pessimiste de l'intellect, mais optimiste de la volonté. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est je suis pessimiste de l'intellect, mais j'espère. J'ai de l'espoir et cet espoir, il se marque aussi par une action de ma volonté, quoi.
Alors, tout ce qu'on prend à une question philosophique. Du coup, l'espoir est nécessaire pour l'action de toute façon.
Eh bien, c'est une question du chat ou c'est ta question, ça?
C'est une question du chat, de tout ce qu'on
D'accord.
prend.
Ça, c'est une grosse difficulté avec ce sujet. C'est que les philosophes ont parfois tendance à faire ça. Il y a une tendance, je trouve d'un peu vilaine, à vouloir faire un tour de passe-passe conceptuel, à définir l'espoir comme étant un truc actif, et à définir l'espoir comme étant espérer, c'est d'agir, et du coup, à dire, ben voilà, vous voyez, donc l'espoir est nécessaire à l'action. Parce que sinon, les autres trucs, on n'appelle pas ça espoir. Hein. Et donc, c'est en fait là, ce serait un argument du coup circulaire, quoi. Hein. On inclut dans la définition de l'espoir l'action, et c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, j'essaie d'éviter de faire ça, tout en maintenant, du coup, en citant ces définitions dans la littérature philo. Donc, pour moi, le troisième élément, hein, de la définition que je vous ai citée, c'est simplement, c'est actif, mais dans un sens minimal. Hein. C'est tabler sur la chose qu'on espère. C'est l'intégrer dans ses plans et projets. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on sort dans la rue et qu'on va militer ou qu'on est hyperactif, etc. Mais ce n'est pas simplement juste une estimation intellectuelle. C'est quelque chose, on est investi au moins hein, personnellement dans cet espoir. Et c'est quelque chose qui nous mouvoie. De nouveau, je ne sais plus trop si je parle correctement,
Qui nous bouge.
plus qui nous bouge, mais hein, même si c'est juste intérieurement, hein, c'est quelque chose qui
Ok.
nous. Voilà, sur laquelle on table. C'est comme ça que je le dirais. Et donc, mais donc, ça ne veut pas dire nécessairement que l'espoir pousse à l'action. Ça, c'est de nouveau, c'est la question empirique voilà, qui demande à être résolue par la littérature compétente.
Et après, il y a quand même une partie de la vidéo où tu dis même que c'est un devoir moral quelque part d'espérer, notamment pour nous qui avons quand même beaucoup de choses à notre disposition et aussi des possibilités d'action et pour qui le désespoir est parfois une position confortable, ou l'inaction plutôt, je devrais dire, est parfois une position confortable. Donc ça, je pense, c'est un point intéressant mais qui est également un peu dur, quoi. Tu vois, moi, si j'en ai marre, je sais pas, de me battre parce que je me bats contre des moulins à vent et que je veux aller faire un métier, je sais pas, aller conduire des RER, tu vois, comme ça, une fois que ma journée est finie et je rentre chez moi tranquillement. Bah, si j'abandonne le fight, là, c'est immoral, quoi. Je suis obligé de me battre. C'est parce que
Oui,
c'est un peu le point que tu fais quand même, ça va loin, hein.
c'est pas évident, et c'est pour ça qu'à un moment, du coup, Jean-Loup intervient en disant, bon, c'est bien joli ces trucs de schtroumpf à lunettes moralistes, mais voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à agir uniquement par devoir, hein, et donc je comprends bien que parfois, surtout, donc du coup, l'approche kantienne peut paraître assez rationnelle, un peu presque un peu inhumaine, quoi, hein, de dire. Ah, t'es désespéré, mais vas-y, t'as le devoir d'espérer. Enfin, voilà, t'es désespéré, donc c'est immoral. C'est pas forcément le truc à dire à quelqu'un qui est dans une dépression suite à son désespoir. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis pas dans la vidéo. Le but n'est pas d'être. Je serais sans doute un très mauvais coach de vie. Hein, et donc, ce n'est pas une chaîne de développement personnel. Le but de la vidéo, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut dire rationnellement et qu'est-ce qu'on peut dire à partir de littérature philo sur l'espoir et sur son rôle politique. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un devoir quand même d'espérer, d'après moi? Ben, donc, je montre deux approches, une approche conséquentialiste et une plus déontologique. L'approche conséquentialiste, du coup, ben, donc, est juste ou est morale. L'action ou l'État qui a les meilleures conséquences pour le monde. Et donc là, ça demande de résoudre la question empirique. Et donc j'ai un peu farfouillé, mais très modestement, dans cette littérature empirique pour voir si vraiment, comme le disent certains, il faudrait abandonner l'espoir parce que l'espoir serait contre-productif, etc., etc., et que seul le désespoir ou l'anxiété ou la peur, etc., motive à l'action. Et ben, de ce que je vois quand même, c'est pas inutile, hein, c'est pas forcément inutile de faire peur à ceux qui, peut-être, auraient tendance à sous-estimer les enjeux, etc., ou de produire un certain choc, etc. Mais certainement, abandonner l'espoir, ça c'est sûr que l'espoir fait partie des ingrédients nécessaires au passage à l'action, quoi. La peur seule, d'après ce que j'ai pu lire, peut très vite, évidemment, tomber à une forme de fatalisme, une forme d'abandon du passage à l'action, quoi. Donc oui, l'espoir est un ingrédient nécessaire au passage à l'action. Et donc, en ce sens-là, d'un point de vue conséquentialiste, on a le devoir d'espérer. Et d'un point de vue kantien, je fais un argument un peu plus compliqué, mais qui revient à dire que si on veut pouvoir espérer rationnellement, et qu'on est dans le domaine des actions dans lesquelles l'action humaine peut avoir un impact, eh bien, pour pouvoir espérer, il faut d'abord faire son devoir, et donc il faut d'abord faire ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire du point de vue de la crise climatique. Et ça renvoie à toute la question des devoirs individuels ou pas, et de l'action pour le climat et l'environnement.
Ouais, et j'ai pas pris le temps, mais dans la vidéo à ce moment-là, tu montres un passage d'une vidéo d'échange climatique, je crois, avec une chercheuse qui parle de ces questions-là aussi.
Oui.
Est-ce que tu te rappelles rapidement ce qu'elle en disait? Parce qu'elle parlait du rôle de l'espoir, ça?
Oui, notamment, mais beaucoup de choses. En fait, c'est surtout sur la peur, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette vidéo que je ne prétendrai pas résumer. Mais donc, la peur ou l'angoisse, l'anxiété peut jouer un rôle dans les moteurs du passage à l'action. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je rejette. En fait, comme d'habitude, voilà, je rejette juste le faux dilemme, quoi. Souvent, sur ces questions, et c'est un peu peut-être une tendance que peuvent avoir certains militants, c'est d'utiliser des formulations excessives pour choquer l'auditoire. Et il y a eu notamment pas mal de prises de position disant il faut abandonner l'espoir. L'espoir, ça sert à rien. L'espoir, c'est la pilule bleue, pilule rouge, je sais plus. C'est l'anesthésiant qui voilà, empêche d'agir. En fait, non. Sans l'espoir, il n'y a pas de passage à l'action.
Donc là, ce qu'on est en train de dire quelque part, c'est
Semble-t-il.
que la peur peut aider ou pas, mais l'espoir aide aussi. En fait, plutôt que lutter contre la peur, il faudrait lutter contre le désespoir, quoi. Parce que le désespoir, on sait que c'est un facteur qui immobilise quand même. Si on voit pas de raison de. Enfin, si on croit pas qu'on puisse changer le système, on n'essaie pas de le changer, quoi.
C'est ça, oui. Si on pense que quoi qu'on fasse, effectivement, on est dans un monde qui est mu par le destin ou par une série de forces qui nous dépassent, etc., c'est sûr que on n'a pas de. On a, donc, rationnellement, ça aussi, c'est un truc. On n'a pas de raison d'agir si on est désespéré. Ce serait irrationnel d'agir quand on est désespéré. Mais bon, c'est possible. Les gens peuvent agir pour des motifs irrationnels. Donc, ça, c'est pas. C'est pas. Mais donc la question, c'est est-ce que empiriquement, quand les gens sont désespérés, ils passent à l'action? Ce que demande la littérature empirique, c'est que souvent plutôt non. Comme ça paraît assez intuitif, quoi. Mais donc voilà, ça demande quand même d'un peu se pencher sur cette littérature pour pouvoir le confirmer.
Strict nous demande, est-ce que Sisyphe est désespéré à monter son rocher? Est-ce qu'il croit pouvoir s'en sortir?
Bonne question, bonne question. J'ai pas de.
Ouais, moi c'est une vidéo qui m'a pas mal parlé parce que c'est des sujets qu'on avait déjà abordés sur le climat pas en live, hein, ces questions de fatalisme, de désespoir, etc. Et c'est aussi des. Je vois même quand je donne des cours ou des conférences, des questions qui reviennent souvent sous différentes formes. Et par exemple. J'ai quasiment tout le temps la question de est-ce que c'est pas trop tard, voilà, pour le changement climatique, est-ce que c'est pas trop tard? Et au final, ça rejoint un peu ça la question. Parce que est-ce que c'est pas trop tard, c'est une question qui vise à ce qu'on te réponde, quoi, que si c'est trop tard, et du coup il n'y a rien à faire, donc désespéré et il n'y a plus d'action possible. Alors qu'en fait, bon, c'est trop tard pour certaines choses, hein. Il y a des espèces qui ont déjà disparu à cause du changement climatique, il y a des gens qui sont déjà morts, etc. Donc pour eux, clairement, c'est trop tard. Mais en fait, quel que soit le niveau de température auquel on est, ça peut encore être pire. Donc en fait, c'est pas trop tard pour éviter le pire. Et du coup, il n'y a pas cette position facile de se dire, il n'y a plus rien à faire, et on ne peut rien faire. Et du coup, si on dit, Non, en fait, il sera jamais trop tard. Ça implique que ce devoir moral de devoir faire quelque chose, surtout vu l'étendue des impacts, quoi. Et ça, c'est compliqué,
Ouais.
hein. Je comprends la question parce que ça permettrait une position de facilité, mais si c'est jamais trop tard, en fait, on est tout le temps obligé d'y faire quelque chose, moralement.
Ouais, ça me rappelle, je pense que c'était quelque chose que tu m'avais dit et ça m'avait pas mal parlé. Tu m'avais dit concernant du coup effectivement les réactions de nos sociétés au péril environnemental et climatique. Tu m'avais dit quelque chose comme ce sera toujours trop peu, trop tard. On aura ce qu'on fera là quand on voilà quand on agira et l'action qu'on mettra pour diminuer nos émissions ou pour adapter nos sociétés, ce sera toujours pas assez, ce sera toujours pas assez vite, mais c'est quand même quelque chose. Et donc enfin c'est moi je trouvais ça intéressant parce que ça permet de sortir aussi de un peu un sophisme de la solution parfaite, de dire et d'une pensée un peu binaire qui serait à dire soit on répond à l'urgence climatique, soit on n'y répond pas. Et comme si, enfin voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on répète les chaque dixième de degré compte, etc. Ça paraît pas très très difficile de voir que en fait il y a des milliards de nuances entre ces deux options, quoi. Et donc oui, ce sera forcément décevant. Je pense qu'on est déçu, on sera toujours déçu par l'action de nos sociétés. On sera comme si on est militant contre l'injustice, on sera toujours déçu par le fait que voilà, des injustices subsistent et qu'on n'arrive pas complètement à sortir de situations de discrimination, de racisme, de... Mais c'est pas une raison d'abandonner le combat, quoi.
Bah, ta déception, elle va dépendre de ce que tu fais comme pari sur notre capacité à bouger. Tu vois. Si des gens qui sont aujourd'hui sont très fatalistes ne seront pas forcément toujours déçus. Peut-être qu'un jour, on les surprendra. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours un impact résiduel. Et quand on regarde une question particulière, on aura toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Mais il faut aussi se rappeler dans ce cas-là qu'il n'y a pas que le climat. Et en fait, tous les gens qui luttent pour un sujet particulier, ils trouvent aussi qu'on n'en fait pas assez sur ce sujet. Et ça, je pense, ça a une seconde implication qui est que... À mon avis, il faut arrêter de croire qu'un jour tout le monde va s'intéresser au climat, comprendre les enjeux et nous rejoindre dans notre lutte. Il faut partir du principe que cette lutte-là, on sera une minorité à la faire, même si la majorité peut être d'accord avec nous. Il faut voir à quel point, comment on lui présente les choses. Mais faudrait pas partir du principe que notre lutte est plus importante, qu'elle est la seule et que tout le monde s'en préoccupera. Il faut comprendre que d'autres personnes ont d'autres luttes et encore d'autres personnes n'ont pas de lutte, peut-être. Et du coup, voilà, c'est. Et aussi, j'espère qu'ils ont des motifs d'espoir, comme ça les pousse à se bouger, à améliorer le monde sur ces autres sujets, quoi.
Oui, c'est sûr. Ça, je pense effectivement que la solution, ça passera pas par convaincre les 7 milliards d'habitants de cette planète de l'importance du climat et l'environnement et de l'importance de passer à l'action et de lui-même faire ses efforts individuels pour le climat, ni même de l'importance de l'enjeu climatique. C'est pour ça qu'on a des institutions et que il faut pouvoir se reposer sur ces institutions. Il faut pour ça faire pression sur ces institutions. Et donc, en tant que citoyen, heureusement, dans des sociétés démocratiques, eh bien, on a quand même pas mal de leviers pour faire pression sur ces institutions pour que vraiment la préoccupation pour le climat et l'environnement soit intégrée dans les politiques publiques et le soit de manière ambitieuse, quoi. Mais oui, on a un peu trop tendance dans le mouvement écologiste à confondre. La nécessaire prise de conscience d'une masse suffisante pour faire bouger les choses par un espèce de discours voilà, on va devoir enfin imaginer que tout le monde doit avoir une compréhension d'un rapport du GIEC même le résumé pour décideurs hein, et que tout le monde doit savoir doit avoir le détail de compréhension du système climatique terrestre, enfin, moi, j'y crois pas, quoi. Je pense que justement, l'action contre le réchauffement climatique doit être suffisamment forte et suffisamment institutionnalisée pour que même des gens qui n'habitent rien participent à un système qui fait qu'on agisse, quoi, et puissent le trouver légitime. Mais donc ça renvoie évidemment à des questions dont on a déjà parlé, comme les enjeux de tarification du carbone, etc., qui font partie notamment de ce genre de mesures qui en fait parviennent à être efficaces, même si les gens, même pour des gens qui n'y pigent rien et qui voudraient faire des achats de trucs qui sont pas du tout durables, pas du tout soutenables, quoi.
Mikamus 2 dit My Two Cents. La question c'est plutôt l'espoir. Pourquoi est-ce qu'on peut rester sous la 1,5 degré juste en réduisant l'émission? Clairement non. 2 degrés c'est faisable mais difficile. D'où l'utilité d'utiliser les autres choses qu'on pourrait faire à part réduire les émissions. CDR, SRM, etc. Ouais, non, mais je rejoins ça. Et ce qui pose la question aussi de si dans l'espoir il y a cette notion de on vise quelque chose. Qu'on pense réalisable, qu'on pense possible, qui n'est pas certain et auquel on associe une probabilité. Est-ce que ça implique de l'estimer, ça? Si, tu vois, si on a une approche où on se base sur l'espoir pour agir, ça implique quelque part de laisser de côté des solutions qui ne seraient pas réalistes, quoi. On doit viser des solutions qui ont une chance d'advenir.
Il faut ouais que donc pas seulement qu'elles soient possibles, effectivement, mais qu'elles aient une probabilité minimale d'advenir. Donc effectivement, les trucs, les pipe dreams, les rêves éveillés, les trucs qui, sachant ce qu'on connaît du monde, hein, et des lois qui le gouvernent, disons, n'ont aucune chance d'advenir, oui, on peut les mettre de côté. Ça sert à rien d'espérer quelque chose qui soit physiquement possible, mais absolument improbable et qui n'a aucune chance, dont on ne pense pas qu'il a des chances d'advenir. Donc, ça permet de trier peut-être parmi ces choses-là, mais c'est une condition assez faible, quoi. On n'est pas forcément obligé d'espérer uniquement. Donc, ça, c'est la différence entre l'optimiste de nouveau et la personne qui espère. L'optimiste, il va être optimiste parce qu'il fait un jugement intellectuel sur quelles sont les probabilités de tel dénouement, et ben voilà, il va plutôt estimer que les probabilités sont plutôt positives, d'un dénouement positif, et la personne qui espère, elle va tabler sur une chose qu'elle croit possible,
Et agir en conséquence.
et agir en conséquence, en tout cas faire ses choix de vie en conséquence, ouais.
À ces clous-là, il a une bonne question, je pense. Mais comment définir cette proba minimale? C'est une vraie question fortement politique. Différentes personnes ne vont pas avoir le même seuil. Il y a des personnes qui vont espérer une décroissance en pensant que politiquement, on peut l'atteindre facilement, et d'autres qui n'y croient pas parce que politiquement, c'est un programme qui montre quelques lacunes.
Oui, bien sûr. Je vois comme tu me fais glisser sur le sujet de la décroissance,
Là,
là.
c'est juste que c'était évoqué dans le chat, donc
Suivrai
je place une petite
doucement.
réponse au passage. Non, mais
Mais.
c'est vrai, tu vois, quand tu penses notamment à des actions politiques, en fait, il y a des personnes qui vont penser que certaines actions politiques enfin, sont impossibles et d'autres qui vont y croire dur comme fer. Et donc là, on rentre sur quelque chose qui est assez difficile. En fait,
Ouais.
des personnes vont espérer des choses incompatibles entre elles, où mon espoir va pas être celui que partage mon voisin, quoi.
Ah oui, c'est clair. Et c'est pour ça que, évidemment, c'est là que se situe évidemment l'intérêt du débat politique et du débat public, qui est d'arriver à pacifiquement se mettre d'accord, ou en tout cas trouver des convergences sur quelles sont les sources d'espoir les plus probables, ou sur lesquelles on doit pouvoir tabler. Mais rien n'empêche de nouveau un pluralisme d'approches et de motifs d'espoir. Et dans la mesure où voilà, où elles sont pas entre elles contre-productives, où elles se minent pas les unes les autres. D'ailleurs, c'est aussi parfois une tendance, je trouve, un peu qui me paraît un peu nocive dans ces débats. C'est qu'il y a des gens souvent qui vont avoir tendance à défendre une mesure, ou défendre une idée, ou un et à dénigrer les approches de tous les autres, quoi, hein, parce que c'est pas la leur. Et ça, je pense qu'on doit de nouveau garder l'humilité épistémique de dire, ben, en fait, on sait pas c'est quoi la bonne approche, on n'est pas sûr, quoi. Et donc, c'est pas parce que tu t'es engagé dans la voie en faveur de la mesure A tous ceux qui plaident en faveur de la mesure B sont tous des gros nigauds incapables. Et ouais. Enfin voilà, il faut arriver à tolérer que même sur ces enjeux-là, peut-être qu'on se trompe.
Donc tu pousserais à plus de bienveillance envers les mesures des autres.
Bah, en tout cas, ne pas saper, saper les uns les autres. Donc, ça ne veut pas dire de nouveau qu'on ne peut pas se critiquer, qu'on ne peut pas avoir un débat sur quand on estime que telle approche est vraiment contre-productive, vraiment nocive au débat, hein, et bien sûr. Mais il ne faut pas en permanence, parce qu'on on défend telle approche ou telle mesure, essayer de dénigrer. Celle des autres, quoi. Ouais.
Alors, Ripley nous dit, avant j'étais quelqu'un de pessimiste, je ne voyais que les nuages noirs à l'horizon, mais maintenant mon cerveau me force à l'optimisme face aux éléments de plus en plus irrationnels qui se passent, écologie, politique, etc. Et je lui ai demandé de clarifier un peu. Et il m'a dit, en gros, les choses qui arrivent pourraient me faire paniquer, mais je me focus sur les éléments qui pourraient empêcher que ça arrive. Bah, je pense que c'est une bonne stratégie, c'est ce qu'on essaie de faire tous, non? De ne pas paniquer devant l'actualité et de continuer à essayer de pousser dans la bonne direction.
Mais disons que ouais, c'est vrai que on peut c'est comme quand je sais pas quand on apprend à conduire hein, on vous dit ne pas fixer l'obstacle ne pas fixer ou un véhicule dangereux etc. et parce que du coup si on fixe l'obstacle on va avoir tendance à se diriger vers il y a un truc où à quoi bon se focaliser sur toutes les milliards de façons dont les choses pourraient mal se passer. Bien sûr, c'est utile d'en prendre connaissance hein, et de savoir ce qui pourrait mal se passer. Je ne dis pas qu'il faut être dans le déni, mais à quoi bon se focaliser sur tous les facteurs de désespoir quand on peut, je pense, se focaliser sur les opportunités, sur les choses qui pourraient enclencher un dénouement plutôt dans le sens de ce qu'on espère, quoi. Moi, c'est clair que c'est un peu, mais alors c'est sans doute un biais hein, que j'ai, hein, mais j'ai tendance à voir les opportunités, quoi. Et me dire, bon, ben, à chaque fois, même récemment, ici, dans la vidéo, j'explique un peu que bon, l'élection de Trump, ça m'a mis quand même un sacré coup, quoi, parce que c'est sûr que ça va rendre tout beaucoup plus difficile. Hein, et donc, je ne dis pas que c'est un facteur d'espoir. Enfin, j'en parle dans la vidéo, hein. Les facteurs d'espoir, c'est des faits sur le monde qui peuvent nous aider à ancrer notre espoir dans des trucs factuels, quoi, hein. Des choses qu'on connaît sur le monde. Et qui... Mais malgré tout, ouais, un de mes premiers réflexes a été de me dire, bon, ben, potentiellement, avec Trump, avec une Amérique climato-sceptique qui part en vrille, une démocratie américaine qui s'affaiblit, voire qui devient de plus en plus un système peut-être autoritaire, l'Europe va être forcée de se prendre en main et l'Union européenne va être forcée de scotcher un peu une tendance qu'on a à suivre notre grand frère américain, n'est-ce pas? Et donc, peut-être que ça va pousser, qu'un mal va amener. D'autres opportunités. Je ne dis pas du tout que ce serait pas mieux si Trump n'avait pas été réélu. Mais voilà, je pense que c'est plus utile de voir ce genre de choses aussi que de se lamenter, quoi, parce que, enfin, ouais.
Alors, Florianic nous dit bonjour à tous, que cette vidéo sur l'espoir est utile. Bravo à toi. Donc, bravo. Moi, je la trouve vraiment cool cette vidéo aussi. Je pense que c'est une
Merci.
vidéo qui pourra être partagée en différentes occasions. Et y a un truc dont tu viens de parler là, et ça me fait penser à un bout de ta vidéo où tu expliques que bon, on n'est pas forcément égaux aussi devant la chimie de nos cerveaux ou devant notre historique, quoi. Donc, toi, si tu arrives à avoir une vision un peu plus optimiste, ça se trouve. T'y es pour rien dans cette vision, et peut-être qu'on peut aussi comprendre les gens qui désespèrent ou qui n'arrivent pas à décaler le focus ou à changer leur mindset. On peut essayer de les aider, mais bon, on n'est pas forcément tous égaux là-dessus.
Ah oui, bien
Et
sûr, il y a sans doute un biais psychologique, comme je le mentionne dans la vidéo. Mais Après, je pense vraiment qu'il n'y a pas que ça, quoi. Je pense que c'est ni productif ni moral de se complaire dans le désespoir quand, enfin surtout, et c'est ça que je discute à la fin de la vidéo, quand on fait partie soi-même des populations privilégiées des pays du Nord, quoi, qui vont le moins souffrir du réchauffement climatique et qui font partie de ceux qui peut-être qui peuvent le plus, qui ont le plus de levier aussi pour. Mais ouais, quand on fait partie des pays qui ont les ressources pour mettre en place des mesures d'adaptation au réchauffement climatique, pour indemniser les victimes de catastrophes naturelles, etc., pour. Au final, c'est quand même difficile après comparé aux habitants du Pakistan, dont encore une bonne partie de la population est encore déplacée loin de chez eux suite aux terribles inondations d'il y a quelques années, ou d'Haïti, ou de plein de pays du Sud qui sont déjà les plus touchés, quoi. Eux, ils n'ont pas le choix, en fait, de ne pas désespérer. Nous, on a un peu ce luxe. Et je comprends, enfin, c'est normal d'avoir des moments où on a envie de laisser tomber, où on n'y croit plus, et c'est tout à fait normal. Mais il faut essayer de ne pas rester là-dedans, parce que ça sert à rien. Et nous-mêmes, en fait, on fait partie de ceux qui peuvent le plus, et il faut s'en rappeler, quoi.
Ça me fait penser à un truc, je sais pas, tu vois ce que c'est la chaîne Stupid Economics? Et ils ont fait toute une série sur 2050 là, qui est assez intéressante à regarder. Et là, ils ont sorti leur dernier épisode il y a pas longtemps, où il y a 2 semaines quand même, où ils reviennent un peu sur l'expérience. Et c'est assez intéressant parce que je regardais l'autre jour et je regardais les commentaires. Et il y a des gens qui disent, ouais, ça leur permet de se projeter et ça leur donne de l'espoir sur le fait qu'il y a des possibilités, quoi, sur le fait qu'il y a un futur qui est souhaitable et tout. Et donc ça rejoint vachement, hein, ce qu'on discute ici, de personnes qui sont bloquées dans des postures de désespoir et qui ont du mal à en sortir. Et je sais que moi, j'ai déjà eu des retours en ce sens aussi, sous mes vidéos, en commentaires ou en mail, de personnes qui me disent que ça leur permet de sortir d'une boucle de désespoir qui non seulement pousse à l'inaction, mais en plus pose un autre gros problème, qui est que ça fait de la souffrance psychologique, quoi. Et quand c'est indu, c'est d'autant plus grave, quoi.
Oui, ça, je suis persuadé qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur. On en parle de plus en plus, hein, sur les imaginaires, etc. Et sur arriver à dépeindre une société qui parviendrait à prendre à bras le corps les enjeux environnementaux, climatiques, et à donner à montrer des voies, à montrer des mesures, à montrer. Ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on pourrait faire, etc. Ça permet effectivement. Enfin, si on peut pas se l'imaginer, on n'a pas vraiment de motif d'espérer, quoi. Il faut qu'on puisse voir vers où on devrait aller, quoi.
Et Loïc nous dit avant de partir au sport, ah oui, il faut pas hésiter à se faire aider. Croire qu'on va s'en sortir seul est un truc très genré d'ailleurs. Donc si ça va pas, n'hésitez pas à consulter les
C'est vrai.
spécialistes, qui ne sont pas nous,
Pas du
parce
tout.
qu'on n'est pas spécialistes, pour sortir de cette phase-là. Donc ouais, il y a la question des imaginaires là qu'ils ont bien réussi avec 2050, mais moi sur ma chaîne je parle pas tellement d'imaginaire et je vois même quand je donne des cours ou des conférences que je lis du groupe 2 ou du groupe 3 du GIEC, c'est des motifs d'espoir pour ma classe, ce qui me fait un peu peur vis-à-vis de ce à quoi on est exposé hein, dans les milieux environnementaux. Hein. Lire les rapports du GIEC, ça devrait pas nous donner de l'espoir. Hein. Déjà on devrait connaître un peu plus les résumés du groupe 2 et 3, mais ça fait un peu peur de savoir que expliquer aujourd'hui l'état des connaissances scientifiques, c'est significativement différent de ce à quoi les gens à qui je m'adresse étaient exposés jusque-là, quoi.
Mais après, je pense qu'il y a aussi quelque chose, en tout cas, enfin, ça c'est mon ressenti, et c'est, je parle peut-être, enfin, c'est peut-être en tant que vulgarisateur que j'ai tendance à voir les choses comme ça, mais le fait de comprendre, y compris du coup de lire. Un bout d'un rapport du GIEC, etc., ou de lire des choses qui peuvent paraître très déprimantes, et qui peuvent paraître. Mais en ce qui me concerne, moi, le fait de mieux comprendre les ressorts du coup du système climatique ou justement de l'adaptation, l'atténuation, etc. Moi, je trouve ça, alors je vais utiliser un gros mot, empouvoirant. Je trouve ça me donne l'impression d'avoir prise sur le réel, quoi. Et alors que quand en fait on est dans une compréhension qui reste encore un peu vague, etc., des enjeux, ben oui, on peut plus vite peut-être tomber dans un désespoir. Mais bon, c'est peut-être parce que je vois mon utilité sociale en grande partie comme être une tête sur YouTube qui explique des choses pour que des gens plus malins que moi et avec plus de ressources que moi puissent peut-être les appliquer et faire avancer
Ouais,
des causes, je sais pas.
donc là on est doublement biaisé. Je pense qu'on apprécie tous les deux apprendre des trucs et en plus on enseigne des trucs. Donc on est loin de la neutralité quand même. Gnocchi con
Ah oui, mais
pesto dit
toujours.
comprendre, c'est augmenter sa capacité d'agir et ça rend heureux. C'est pas Spinoza qui a dit un truc comme ça?
C'est fort possible, je connais très mal Spinoza, mais on va dire que c'est... Non, mais c'est oui, moi je trouve ça très vrai. J'ai l'impression que même si... Enfin, je pense de nouveau que ça peut s'appliquer même au-delà des vulgarisateurs ou des geeks comme nous. Il y a quelque chose quand même d'empouvoirant au fait de comprendre le monde.
Ceci dit, on a quand même toutes les recherches autour du, comment ils appellent ça? Information deficit model, non? Donc l'idée que les connaissances ne suffisent pas à passer à l'action. Donc il ne faut pas non plus tomber dans ce biais-là.
Oui, ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur il faut pas penser que la seule chose à faire c'est d'essayer de fourrer dans le crâne de tous les gens qui passent les informations des derniers rapports du GIEC hein, et que tout le monde doit comprendre tous les ressorts du système climatique. Oui, ça suffit clairement pas.
Alors, pour le changement climatique, c'est très simple ce qu'il faut savoir en fait, hein. Il existe, il est d'origine humaine, il est grave, on peut y faire quelque chose, les experts sont d'accord là-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, sur le on peut y faire quelque chose et qu'est-ce qu'il faut faire, bah, vous allez vous écharper avec à peu près tout le monde, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des leviers, quoi. Donc voilà, je voulais faire rapide. Si vous ne remettez pas en question le consensus scientifique et si vous ne cherchez pas à comprendre comment tout ça fonctionne parce que ça ne vous intéresse pas, politiquement, sachez qu'il est d'origine humaine, que c'est grave, qu'on peut y faire quelque chose et qu'il y a un bon accord sur ça. Et y faire quelque chose pour le climat, c'est quand même pas mal lutter contre la consommation de ressources fossiles et aussi les questions d'alimentation et notamment de consommation de viande, qui touche encore plus fortement la biodiversité, donc double effet qui se coule. Donc on peut aller assez vite sur ces sujets, sur des publics non experts qui ne s'intéressent pas aux détails. Et après, ça se complique quand ils demandent à comprendre, qu'on leur explique les mécanismes pour justifier leurs actions, etc. Et dans ce cas-là, en tant que vulgarisateur, on doit leur apporter des réponses, et j'ai aucun problème à expliquer les subtilités physiques du changement climatique. Mais pour des gens qui me disent, moi ça ne m'intéresse pas, dites-moi juste ce que je dois faire, c'est possible aussi, quoi.
Ça paraît un bon résumé,
N'Golo dit, je suis animateur de la fresque et je suis toujours surpris quand les gens trouvent l'atelier déprimant car c'est simplement un arbre de cause et effet. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les gens avec une éducation technique scientifique ont tendance à être moins déprimés par l'atelier. Ok, c'est intéressant. Mais c'est pour ça que la deuxième partie de l'atelier où on parle un peu de ce qu'on peut faire, c'est important. Mais je pense que ça peut être déprimant aussi si tu sais pas qu'il y a ces conséquences-là, si tu connais pas ce problème et sa gravité. Je pense que toutes les personnes qui sont rentrées dans les problèmes environnementaux et qui ont compris la gravité de ces problèmes-là, qu'on parle de biodiversité, qu'on parle de changement climatique ou d'autres problèmes environnementaux, de pollution de l'air, etc., quand vous comprenez la gravité de tout ça, ouais, ça peut être un peu pesant, clairement. Et de se rendre compte que, je sais pas, quand vous prenez votre douche chauffée au gaz, en fait, vous affectez le bien-être de populations humaines à l'échelle de la planète sur un temps extrêmement long, un tout petit peu, mais quand même, c'est quelque chose qui est quand même frappant. Je peux comprendre que les personnes qui tombent là-dessus, ça mette une claque.
Oui, c'est ça, il y a d'office une phase où il faut encaisser le coup quoi, hein, des informations et où ça peut pousser. Et donc, de nouveau, c'est pas anormal de désespérer par moment, c'est pas anormal d'être déprimé. Mais oui, je pense qu'il faut arriver à dépasser ce stade une fois qu'on est arrivé à encaisser et ne pas tomber du coup dans le fatalisme nihiliste et enfin, de retomber dans le déni, quoi. Ça, c'est un peu le risque, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je connais pas mal de monde qui sont informés, qui sont, pas forcément les plus informés, mais qui sont informés, quoi, qui sont, mais qui sont un peu dans un truc de fatalisme, et qui, du coup, c'est juste une connaissance purement intellectuelle de réchauffement climatique, mais voilà, ça n'impacte pas leur vie à la limite, ça n'impacte même pas leur vote parfois. Alors là, ça commence à devenir quand même un peu problématique, quoi. Au minimum, je pense que on peut s'accorder que s'il y a un devoir individuel des individus pour le climat, c'est de voter pour des partis qui ont un agenda ambitieux sur ces questions, quoi. Et donc, ouais, ça m'intrigue beaucoup. Mais enfin, en même temps, voilà, c'est sans doute une réaction d'un certain désespoir, d'un certain fatalisme.
Alors, Singassa dit ce que je dis souvent en animation des fresques, c'est que si on constatait un changement climatique mais qu'on ne savait pas l'expliquer et où qu'on n'y pouvait rien, bah, ça serait encore plus inquiétant. Ça c'est un point que j'ai déjà essayé de faire aussi. C'est ça te parle de la grande oxydation ou pas?
Non.
Ok, en fait, il y a eu un moment dans l'histoire de la Terre où il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère et l'oxygène a commencé à être produit par des organismes anaérobies, des petites cellules qui vivent en absence d'oxygène, hein, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et il y en a encore, hein, sur Terre, ces organismes-là. Et par exemple, si tu fais mal des conserves de viande, tu peux avoir du botulisme. Et le botulisme, c'est sécrété par un de ces organismes, une cyanobactérie, quoi. Et donc, ces cyanobactéries ont commencé à se développer sur Terre. Et en fait, elles récupéraient le carbone du CO2 et elles libéraient le dioxygène. Donc, c'est elles qui ont amené le dioxygène sur Terre. L'oxygène, c'est un réactif, ça n'existe pas de base. C'est vraiment le vivant qui l'a produit. Et en fait, pour elles, le dioxygène, ça a été un poison. Ça s'est accumulé jusqu'à leur rendre la Terre quasiment invivable. Ils vivent juste aujourd'hui dans un endroit où il n'y a plus beaucoup de dioxygène. Et t'imagines si on était dans un problème de ce type-là? Tu vois, t'imagines si, en fait, les catastrophes environnementales qui nous
On
pendent au
était
nez, qui vont nous faire
bactérie.
mal, étaient la conséquence de notre métabolisme. On serait vraiment, vraiment dans le dur. Et à la place de ça, c'est très grave quand même, mais c'est la conséquence de certaines technologies ou au plus largement de notre organisation, de notre culture quelque part. Et ça, on sait qu'on peut le changer, au moins dans une certaine mesure. Et du coup, on est quand même dans une situation qui est moins désagréable que si on était des bactéries qui mouraient de nos déjections, quoi.
Serait pas mal, ce serait un bon sujet de vidéo.
Ça serait vu comme très technosolutionniste parce que je suis technosolutionniste, pardon, parce que je suis en train de dire qu'on peut changer cette culture-là. Mais parce que là, je suis en train de dire que le fait que ça soit la technologie, le problème, c'est rassurant. Donc je sais pas si tout le monde pourrait l'entendre, tu vois.
C'est ça. La technologie, la société, quoi, c'est des trucs, c'est des leviers aussi. Dans la société, c'est pas
Ouais.
des, en tout cas, c'est pas des leviers. Enfin, c'est pas juste. Il faut pas changer notre organisme, quoi. Il faut pas changer nous. Donc,
Ouais. Ce qui
c'est
serait
rassurant parce
autrement
qu'on
plus
n'est pas des
complexe.
cyanobactéries. Tu pourrais appeler ça la parabole des cyanobactéries ou la.
Et après, il y avait quelques réactions. Ouais. Alors, je vois qu'on parle à des spécialistes, on a des animateurs de la fraise du climat et de l'atelier d'automne. Donc, l'atelier d'automne, c'est un atelier. Je vais essayer de le décrire correctement. J'avoue ne jamais en avoir fait. C'est un atelier où tu mets en place des actions pour réduire l'empreinte carbone à 2 tonnes. Aujourd'hui, on est un peu en dessous de 10 en France et tu fais descendre à 2 tonnes, hein, qui est un objectif. C'est compliqué de savoir pourquoi ils ont choisi cet objectif, mais on va dire que c'est un objectif qui n'est pas très loin de la neutralité. Alors N'Golo, il dit mieux que ça, il dit mieux que moi, il dit c'est un atelier collaboratif qui permet de simuler un scénario de transition depuis aujourd'hui jusqu'à 2050. L'objectif est de partir de l'empreinte carbone réelle des participants et essayer d'arriver à 2 tonnes. Et ce qu'ils nous disent les animateurs là, c'est que souvent 2 tonnes c'est perçu comme plus positif. Les deux sont complémentaires, mais 2 tonnes c'est plus positif parce qu'on est dans l'action et on voit ce qu'on peut mettre en place comme action. Alors que la fraise c'est plus de comprendre le changement climatique, qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences, quelles sont les causes. Donc intéressant d'avoir ces retours-là. Merci les gars.
J'ai jamais fait non plus encore, j'ai eu une occasion, mais j'étais pas dispo. Mais oui, ça m'a l'air effectivement plus orienté vers l'action, ça va être une approche intéressante.
Et John Zoidberg, il dit, c'est le mode d'organisation avant les questions technologiques, c'est le problème, c'est le capitalisme. Mais ça, je suis désolé, je vais le dire encore une fois, mais je suis pas sûr que ce point de vue soit consensuel, hein. C'est le problème, c'est de brûler des ressources fossiles. Tu me fais un monde communiste où tu brûles la même quantité de ressources fossiles, t'as la même conséquence. C'est Alors, si tu veux changer le système économique ou l'agencement de la société, ok, mais pour me convaincre, il faut que tu me montres comment ça change la physique, quoi. Vraiment les émissions qui affectent l'environnement. L'évolution des sociétés que tu souhaites, c'est un intermédiaire. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réaction? C'est très gamifié de tonnes.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Et
Il y a un
après,
peu
ouais,
un double sens.
autour de nous, des personnes qui ont les connaissances et qui passent pas à l'action, on en connaît tous, je pense. Et après, ça dépend. C'est pas toujours facile de comprendre d'où vient cette inaction. Moi, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne font pas grand-chose parce que la solution leur paraît en dehors de leur portée, quoi, ou paraît très lointaine. Imaginez la neutralité carbone, par exemple, bah vous aurez toutes sortes de conférenciers qui vous disent bah non, c'est pas possible, parce que l'acier, le ciment, etc. Et donc, viser comme ça la dernière étape, ça rend la tâche inconcevable, quoi. C'est comme si on veut perdre 20 kilos d'un coup, ou qu'on veut devenir d'un coup super musclé. Et en fait, je pense que la stratégie pour ce cas particulier, c'est d'essayer d'avoir des étapes intermédiaires. Et je pense que là-dessus, la vidéo de Jean-Loup et cette idée de possible adjacent, je pense que c'est une bonne piste. Et dans ce cas-là, vraiment, j'encourage. Je vais prendre un exemple un peu plus concret. Je pense que c'est très dur pour, voire impossible pour certaines personnes, d'arrêter complètement la viande. Et encore pire, si on vise un régime vegan. Bah, dans ce cas-là, ne visez pas ça. Visez d'en consommer moins. Vous en prenez à tous les repas, bah essayez d'en prendre une fois par jour, un repas sur deux. Et une fois que vous en êtes là, bah essayez d'avoir un jour sans. Et vous verrez qu'à la fin, ça sera peut-être plus qu'un jour avec. Et moi, par exemple, j'ai pas arrêté complètement, j'ai fortement réduit. Et je l'ai fait progressivement. Et je pense que si j'avais voulu changer du jour au lendemain, ça aurait été compliqué, même pour des questions pratiques, de trouver suffisamment d'idées de repas équilibrées où il n'y a pas de viande, etc. Ça aurait été, tu vois, une grosse barrière à l'entrée. Et je pense que là-dessus, il faut essayer de convaincre progressivement les gens autour de nous, en essayant de pointer du doigt peut-être les trucs qui ont le plus d'impact, hein, parce que s'ils arrêtent Netflix avant les steaks, on va pas avancer très vite. Mais dire voilà, sur ça, c'est utile de faire un effort. Si ça paraît insurmontable, essayez d'aller doucement. Et puis de montrer aussi comment on fait nous au quotidien et que ça ne change pas. Que voilà, ma vie se passe très bien, même depuis que je mange moins de viande.
Oui, c'est ça, c'est une question sur les éco-gestes, c'est une question d'habitude aussi, c'est une question de ce qui importe, c'est pas ce sac en plastique que vous avez pris ou ce repas, ce voyage, ce trajet particulier. C'est pas d'être parfait en toutes circonstances, mais c'est les habitudes et l'impact qu'on peut avoir sur justement ces habitudes de consommation, habitudes de vie, et dans quelle mesure on peut essayer dans ces habitudes-là de changer deux ou trois petits trucs qui font que, ben, en moyenne, on peut arriver à réduire son impact. Et de nouveau, il ne faut pas essayer d'être parfait, etc. Ce n'est pas les éco-gestes qui vont nous sauver, mais ça peut être pour moi un moyen de se mettre le pied à l'étrier, de faire quelque chose. Il y a aussi, surtout, l'impact qu'on peut avoir sur notre entourage, soit par l'exemple, mais aussi, donc minimalement, pour moi, et c'est pour ça que quand je visais les gens qui sont un peu dans un fatalisme nihiliste comme ça, c'est des gens qui sont convaincus intellectuellement, mais qui vont même jamais en parler, quoi. Hein. C'est pas un sujet, peut-être. Alors, je vais pas me faire mon psychologue de comptoir, mais est-ce que c'est parce que ils ont l'impression qu'ils devraient peut-être faire quelque chose ou faire plus, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un sujet au dîner de famille, aux réunions entre amis, etc. C'est même pas hein, quelque chose sur lequel. Et du coup,
C'est des
voilà,
postures
aide
de déni un
peut-être.
peu là quand même, non?
Ouais, c'est ça. Mais c'est complètement du déni, quoi. Et donc, être cette personne qui ramène, qui met les pieds dans le plat et qui dit, et le réchauffement climatique dans cette histoire, quoi.
Et t'en as pas marre d'être
En plus.
chiant?
Ouais, c'est ça, mais. Mais après, bon, oui, c'est ça. Quand tu es identifié, c'est toujours un peu. C'est quelque chose qui vient plus naturellement, mais justement, quoi. Ça marche d'autant mieux, je pense, quand vous faites ça, quand vous n'êtes pas un usual suspect. C'est
Ouais.
sûr que moi, dans ma famille, quand je la ramène comme ça, on va faire, eh, voilà, ça y est, encore Philoxime avec son écologie. Mais c'est d'autant, je crois que c'est d'autant plus efficace quand vous faites partie de personnes qui n'ont pas l'habitude d'amener ce genre de sujet et qui peuvent convaincre en fait des personnes de leur entourage en disant ce qu'ils ont vraiment ce qu'ils pensent et en étant un petit peu plus ouais, essayer d'être une force de conviction quoi.
Et ouais, bah, moi là, le problème que j'ai, c'est que je suis un peu usual suspect, comme tu dis, et du coup, maintenant je suis dans cette posture où en fait, à chaque fois qu'une personne imagine un truc en lien avec l'environnement, il est là à moi, désolé, j'ai pas acheté bio, et je suis là, mais bon. Moi mon problème, c'est les ressources fossiles, mon gars, vraiment, c'est ça mon problème, tu vois. Ou alors, moi je prends mon savon sans emballage, et je suis là, c'est cool, mais c'est pas vraiment l'enjeu, tu vois. Et du coup, il y a toujours ces interactions, et personnellement, je trouve ça un peu pénible d'être monsieur écologie, donc. Dans certaines sphères, j'évite. Fabchès nous dit, moi, hors ma bulle écolo, c'est pas la priorité, les questions environnementales. Plutôt des personnes qui sont plus en galère financière, par exemple. C'est vrai que c'est un peu un confort de riche quand même de faire des efforts sur sa consommation. Et les habitudes dures à changer. Et c'est là aussi que le changement, hein, on voit que, enfin, croire qu'on va faire évoluer sur les questions environnementales avec un ensemble de gestes individuels et de convictions personnelles, c'est quand même pas mal s'illusionner, quoi. Il y a un moment où la lutte, elle devient politique et ça prend la forme, bah, je sais pas, par exemple, d'interdiction de voitures thermiques neuves en 2035, quoi. C'est ce levier politique-là, il est absolu et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de faire du porte-à-porte pour convaincre les gens qu'il faut arrêter d'en acheter, ils pourront plus en acheter.
Mais
Et
c'est
c'est
vrai.
là-dessus que les personnes comme nous, qui ont le temps de s'en préoccuper et qui ont le temps d'agir, on doit pousser pour avoir ce type de mesure. Sans ça, on s'en sortira pas, quoi.
Mais c'est vrai quand même qu'il y a quelque chose comme un changement des mentalités à arriver à faire opérer pour que ces changements politiques puissent être légitimes. Tu vois, je pense à l'état lamentable de la réparabilité de nos objets de consommation, etc. La culture un peu des trucs jetables et de ça marche plus, je le balance, j'en achète d'autres. Enfin, il y a tout un tas de tendances dans nos habitudes de consommation qui fait que on n'a plus l'habitude de prendre soin des choses et on a des objets qui deviennent de plus en plus obsolètes, de plus en plus vite, etc. Et donc, je soupçonne que même avec des mesures. Genre tarification du carbone ou des mesures qui permettraient hein, de valoriser le fait de réparer, le fait d'éviter d'acheter du neuf, etc. Ben, enfin, voilà, ces mesures risquent d'être moins légitimes ou moins acceptées dans une population qui a l'habitude d'acheter du neuf et qui a perdu peut-être l'habitude de prendre soin de ce qu'il a, de consommer moins, etc., quoi. Donc, je veux dire, il y a un peu des deux, quoi. Il ne faut pas vouloir être déjà aujourd'hui l'homme soutenable, l'homme ou la femme soutenable de demain, de j'espère très vite. Mais il faut quand même arriver à amener le truc de dire, bon, dans ce monde-là, on ne pourra pas juste continuer à être dans un consumérisme complètement débridé qui se pose pas ce genre de questions quoi.
Donc la lutte culturelle et politique, elle se mène de front parce qu'elles sont interdépendantes, quoi.
Ben ouais, je pense qu'il y a vraiment il y aura un motif financier à partir du moment où ce sera plus intéressant. Moi, quand je vois à quel point les gens sont passionnés par les économies d'énergie les contrats de fourniture de gaz en Belgique, on chauffe beaucoup au gaz, etc., durant la crise ukrainienne. Je me dis que ouais, le motif financier, c'est un bon levier, un bon truc qui pousse à l'action. Mais voilà, il faut aussi que les gens soient convaincus qu'ils perdent pas en qualité de vie s'ils retrouvent aussi un mode de vie qui plus soutenable, qui passe moins dans l'achat neuf, dans la consommation, dans l'utilisation débridée de ressources, quoi. Que, en fait, c'est juste une autre façon de vivre, mais c'est pas frustrant, en fait, une fois. Et donc ça peut aider en ça d'avoir certains éco-gestes, certains de changer certains trucs à ses habitudes de consommation, de pouvoir dire, bah, en fait, je suis pas frustré. Je suis pas, moi, je, nous, on mange plus de viande. On lui fait vraiment, c'est pas du tout une frustration. C'est juste, mais ça faisait déjà un petit moment qu'on était flexi, hein, mais c'est. Ouais, c'est juste un changement d'habitude. Et en fait, je suis très. Tu peux vivre très heureux avec ça ou avec, enfin, tu vois, tout un autre changement de comportement.
Ouais. Oscar Bonnet nous dit, l'argent et la bonne santé sont de bons moteurs, pardon. Fab Chaise nous rappelle qu'il y a quand même plein de co-bénéfices à ces évolutions dont on parle. Et Galvis93 dit, est-ce que avant d'arrêter le fossile, il ne faudrait pas transformer nos grandes villes? Alors, bon, il y a sans doute des choses à transformer dans les villes, hein, mais pas besoin de le faire avant ou après, on peut le faire en même temps. Et sans doute, c'est une manière de réduire la consommation de ressources fossiles. Et je pense que là-dessus, il y a des évolutions qu'on voit, y compris sur le territoire, hein. Des villes, beaucoup de nos grandes villes sont devenues quand même beaucoup plus cyclables en à peine une décennie, hein. Moi, je trouve ça assez frappant, hein. Même il y a des endroits. Je prends un exemple, je vais à Toulouse, je pense, tous les ans donner des cours depuis 2019 peut-être. Et en fait, même en 3-4 ans, je trouve qu'il y a beaucoup plus de vélos maintenant. L'école où je vais, elle est près du canal. Et franchement, maintenant, traverser la piste cyclable à pied, ce que je suis obligé de faire, ça devient chaud, hein. Il y a vraiment beaucoup de vélos qui vont vite. Et la fréquentation, elle a augmenté assez vite. Et c'est pareil, même Paris a beaucoup changé quand même par rapport au temps où je faisais mes études. Bon, ça remonte un peu plus que 4 ans, mais c'est assez impressionnant.
Ouais, Bruxelles a pas mal changé aussi ces dernières années. Enfin, moi, je pense qu'il faut se méfier du mécanisme qui consiste à dire avant de faire tel truc, il faut faire tel autre truc. Effectivement, je pense qu'on peut faire plein de choses en même temps et qu'il faut éviter d'avoir un ordre idéal de priorité parce que la vraie vie, le monde politique, voilà, c'est à quelque chose de foireux, de bordélique. Et les choses se passent jamais dans l'ordre idéal qu'on avait conçu. Et en fait, bah, peut-être qu'on va être forcé de faire les choses pas dans l'ordre, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, à Bruxelles aussi, il y a beaucoup plus d'aménagements cyclables, etc. Il y a eu un gros plan, du coup, qui a pas mal changé la ville ces dernières années. Et malheureusement, on a vu une partie de la population voter. Pour des partis qui ont annoncé qu'ils voulaient revenir en arrière là-dessus et qui veulent un retour de la vraie liberté qui est celle de conduire une automobile, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça aussi que moi j'ai cet exemple-là en tête quand je pense aussi changement des mentalités. Il faut arriver à rendre légitime et acceptable ces changements qu'on est en train d'essayer de. Qu'on appelle de nos voeux, quoi, hein, qu'on est en train d'essayer de faire passer, parce que sinon, c'est le backlash.
Ouais.
Voilà, il faut.
D'ailleurs, Clem Butrol nous dit, je suis désolé d'être abrupt, mais ça fait vraiment discours d'écolo bobo parisien. Alors que j'habite
D'accord.
même pas à Paris. Je suis pas très loin,
Moi
mais
non
bon.
plus.
Ouais, alors sortons des discussions sur les éco-gestes. Est-ce qu'on discute un petit peu, on va voir sur le chat, il y a des gens que ça intéresse. Est-ce que vous voulez discuter un petit peu de vos facteurs d'espoir sur la question du changement climatique. Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, en gros, quels sont les facteurs qui vous poussent à croire qu'on peut faire quelque chose? Pourquoi? Pour réduire les émissions? Je connais moins l'atténuation, je connais moins l'adaptation. Ça peut être une question pour le chat. Et après, est-ce qu'on leur demandera leurs facteurs de désespoir aussi, ou ça va devenir trop badant?
Ou alors on commence par les facteurs de désespoir.
Voilà, on commence par les facteurs de l'espoir.
Pour pas couler son live.
Bon,
Ou alors pour le couler plus vite, je ne sais pas.
on peut faire les deux. Mettez espoir et désespoir. Et comme ça, on alterne. Rime le mage nous dit, moi, mon facteur d'espoir, c'est vos vidéos à vous deux.
Oh.
Oh, c'est mignon. C'est gentil. On se sent utile,
Merci.
du coup. Est-ce que ça t'arrive de douter de ton utilité en tant que vidéaste?
Question. Trop. Parce que je me dis, mais c'est aussi les nombres incroyables de personnes qu'on touche. Enfin, sur, j'ai plus 42 000 abonnés, etc. Quand tu vois des vidéos qui. Tu te dis, forcément, c'est hit and miss, ça parle pas à tout le monde, et il y a des gens à qui je vais avoir, enfin, voilà, je vais dire une connerie, ça va les braquer, ou j'en sais rien, mais c'est sûr que sur les milliers de personnes qui voient ma vidéo, si je crois à ce que je dis, et c'est le cas quand même, oui, j'espère et je crois que ça aura un impact positif sur un nombre bien suffisant de personnes pour me contenter. Ouais, pour me rassurer complètement si j'ai des doutes sur mon utilité sociale. Et puis de toute façon, on reçoit tellement, enfin je sais pas toi, mais ouais, des commentaires super sympas comme ça, des torrents d'amour sous nos vidéos, c'est que ça va, on n'est pas les plus mal lotis pour. On est même plutôt privilégié du point de vue de notre utilité sociale, de par cette exposition et tout, d'avoir des témoignages.
Ok, mais ça me paraît une justification un peu étrange. Tu vois, si je vais voir sous la vidéo du professeur Raoult, par exemple, il a plein de commentaires élogieux. Est-ce que ça veut dire qu'il a un impact positif pour autant? C'est ce que je me dis, hein.
Oui,
Quand je
mais
lis des commentaires sympas, c'est ce que je me dis. Je vais voir les mêmes sur Raoult ou Aberkan et je me dis, faut que je fasse attention quand même, ils ont un peu les mêmes.
c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense quand même qu'il y a différentes raisons de distinguer notre travail de celui de Raoult Oberkan. Et je pense que ça demanderait aussi de savoir si ces gens sont vraiment sincèrement convaincus par ce qu'ils disent. Et ouais, ce qui est... ça peut être un sujet débattu. Je pense que dans certains cas ça peut être le cas, mais bon, soit oui, c'est sûr que voilà, on pourrait être, je pourrais, mais j'ai pas trop de crainte de me réveiller un jour et de me rendre compte que je suis Idriss Aberkane, quoi.
Est-ce que tu crois qu'Idriss Aberkane a cette crainte?
Ben, il est
Il
déjà
est Idriss Aberkane, mais je veux dire, je sais pas, je pense qu'une partie de ces acteurs, bon, j'ai pris deux exemples, mais il y en a d'autres, hein, je pense qu'une partie de ces acteurs sont aussi sincèrement convaincus d'avoir raison.
Sans doute, sans doute.
Bon, bref, c'était une parenthèse inutile.
Oui.
Et question encore un peu plus dure, tant qu'on est là. Tu t'attendais pas à toutes ces questions.
Ah non.
Donc. Ouais, je pense que voir qu'on a une utilité positive, ça se défend, notamment via nos retours. Mais est-ce que c'est plus ou moins qu'une autre chose que tu pourrais faire, tu vois? Ça, c'est très
Est-ce
dur.
que notre
Ça,
coût
c'est très, très dur.
d'opportunité de... Oui. Oui, non, mais c'est sûr que... Alors, là où j'ai parfois des doutes, c'est sur parfois les capacités du débat rationnel, la capacité du débat rationnel à résoudre certaines questions, et surtout vu, ben, voilà, notamment l'enjeu des algorithmes de recommandation, l'enjeu du débat public qui est de plus en plus pourri sur certaines questions, etc., et sur lesquelles, enfin, face à des conspies climato-sceptiques d'extrême droite, malheureusement, j'ai un peu abandonné, moi, le fait d'essayer de les convaincre, eux. J'espère qu'un jour, quelqu'un arrivera à les convaincre, mais moi, j'estime que c'est pas bon. Et donc, je suis moins optimiste sur, dans certains cas, les capacités du débat rationnel à résoudre certains problèmes. C'est pour ça que, CF, de mes précédentes vidéos, sur la question de l'extrême droite, je suis en faveur de mesures comme le cordon sanitaire qu'on a en Belgique. Je pense qu'il y a des trucs où on ne doit pas rentrer dans certains débats, tout comme il ne faut pas commencer à revenir sur sur le consensus scientifique avec le moindre climato-sceptique. Il ne faut pas commencer à revenir sur certains fondamentaux du régime démocratique ou des droits humains ou de l'égalité entre les hommes, les femmes, etc. Et donc voilà, il y a des trucs sur lesquels je pense qu'il y a des moyens de mettre en place des institutions qui permettent d'éviter une érosion des normes. Notamment démocratique ou du débat public. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre nos efforts et pas forcément essayer de convaincre chaque troll taré d'extrême droite sur Twitter. X. C'est
Très
pour ça
bien.
qu'il faut aller sur Blue Sky.
tu veux toucher un mot de Blue Sky parce que tu en parlais un peu dans la vidéo aussi. Et oui, moi
C'est
j'y
vrai.
suis. Alors, au lieu d'être très peu actif sur Twitter, maintenant en ce moment je suis plutôt très peu actif sur Blue Sky. Voilà. Parce qu'on va dire que je suis pas très présent quand même, mais je m'y suis mis.
C'est pas
Grâce à
mal.
toi qui nous a envoyé des packs de démarrage là.
C'est ça, le pape de Blue Sky. Tu gratifies Blue Sky de ton inactivité, c'est beau. Et tu
Mais
as fermé
attends,
ton compte
attends. Non,
Zitter?
non, non, mais je pense pas que je le fermerai. Déjà, je le
Ça marche
supprimerai
pas.
pas parce que quelqu'un peut le prendre à la place. Puis je
Ouais.
continuerai de regarder. Mais c'est intéressant parce que j'ai regardé Blue Sky et X.
Mmh.
Et Blue Sky est quand même beaucoup plus intéressant à lire. Hein. T'as moins de bullshit, t'as moins de trucs auxquels tu veux réagir. Et c'est pas la même population et surtout, c'est pas les mêmes informations, quoi.
Ah oui, non, c'est terrible, hein. Et puis surtout, tu postes un truc là, tu te retrouves pas direct avec 36 trolls climato-sceptiques qui viennent te sea-lionner, là, comme on dit, avec des questions pseudo-candides, etc. Enfin bon, ouais, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil, venez sur Blue Sky, parce qu'il y a plein de. En tout cas, donc je ne sais pas si la grande migration, la grande exode, évidemment, j'espère toujours qu'elle aura lieu. Elle n'est pas encore finie. Mais en tout cas, pour les communautés des vulga francophones, je pense que là, j'ai l'impression que le gros est présent sur Blue Sky. Tout le monde n'a pas forcément fermé son compte Xitter. Mais là, il y a moyen de complètement oublier Xitter. C'est ce que j'ai fait. Et je m'en porte vraiment pas plus mal. Franchement, commencer sa journée. Alors déjà, commencer sa journée avec les réseaux sociaux, c'est pas conseillé, je pense. Mais commencer avec Zitter, c'était
C'était dur, hein.
terriblement déprimant. Et de voir, enfin, il y avait encore la vidéo du Monde sur l'amplification des tweets d'Elon Musk, etc. Enfin, de voir que les dés sont pipés, quoi. Que tu te retrouves à crier dans un gueulophone qui est en fait contrôlé par un milliardaire trumpiste climato-sceptique, en tout cas de plus en plus climato-sceptique, et qu'en fait, ouais, tu contrôles pas les conditions dans lesquelles tu t'exprimes, et en fait, c'est biaisé contre le genre de discours que tu veux porter, donc pas l'intérêt de continuer à aller. Aller prier pour
Et
du monde.
Aspenier demande Mastodon, je sais pas si tu as regardé les différentes. Je crois que Léa a fait une vidéo là-dessus, non?
Ouais, Lé a fait une vidéo pour discuter notamment des architectures décentralisées. Le modèle Mastodon, Fediverse et tout a des avantages aussi. Donc, je ne vais pas me prétendre expliquer ça correctement, mais le modèle de Blue Sky, c'est vraiment de décentraliser à chaque fonctionnalité du réseau, quoi. Que ce soit l'appli qui te montre les messages de telle façon, que ce soit les trucs qui gèrent le flux, etc., etc. En fait, ça veut dire que il y a vraiment littéralement. Enfin, toute l'appli, tout le réseau sera ultimement est décentralisable et sera ultimement décentralisé. Pour le moment, tout est décentralisé à part les messages privés. Bon. Voilà. Après, c'est aussi une question de qu'est-ce qui prend moins. Moi, j'ai un compte sur Pi, sur Mastodon, mais c'est clair que je vois beaucoup plus gros dynamisme sur Blue Sky. Et donc là, je table plus sur un exode vers Blue Sky.
Ok, alors je vais lire un peu le chat quand même qui nous ont mis quelques facteurs d'espoir et de désespoir. Scolopax25 nous dit, si l'interdiction de vente des véhicules thermiques est bien maintenue, c'est une bonne source d'espoir. Donc là, on a une mesure politique, pouf, qui va dans le bon sens. On pourrait en ajouter d'autres, hein. Je pense qu'on n'a pas toujours conscience, mais politiquement, il y a quand même des mesures qui sont prises, je sais pas, sur l'efficacité de certains trucs électroménagers, sur l'isolation des bâtiments neufs. Peut-être qu'un jour, on aura des interdictions à la location ou à la vente de bâtiments mal isolés, c'est pas impossible. Interdiction de mettre des chauffages au fioul aujourd'hui, par exemple, dans les habitations. Donc là, c'est des ensembles de mesures politiques vraiment réglementaires assez fortes. Et je peux aussi rapidement souligner qu'il y a des problèmes environnementaux qu'on a réglés comme ça. Hein. C'est On a eu des gros problèmes parce qu'on mettait du plomb dans l'essence, hein, qui n'est pas une bonne idée parce que le plomb c'est vraiment toxique. Bah, on n'a plus le droit de vendre de l'essence avec du plomb dedans. Hein. C'est comme ça que ça a été réglé. On a désulfuré les carburants pour lutter contre les pluies acides qui étaient causées par les émissions de soufre. On a interdit certains polluants. On peut penser par exemple au DDT. Aujourd'hui, on a la discussion sur les polluants éternels, les FAS. Donc souvent, c'est quand même des leviers réglementaires extrêmement forts qui permettent d'avancer dans ces directions.
Mais d'ailleurs, sur cette interdiction des véhicules thermiques, je n'ai pas suivi récemment. J'ai vu qu'il était question à un moment au Parlement européen que certains groupes voulaient revenir, certains pays voulaient revenir
Ouais, j'ai pas suivi
sur
non plus.
l'interdiction, mais pour le moment, c'est pas encore, je pense, c'est pas encore le cas.
Après, si les exemptions qu'ils arrivent à nous sortir, c'est des trucs genre carburant synthétique et tout, ça va pas changer grand-chose. Hein.
Non, mais je pense qu'ils voulaient avancer la période de révision qui est prévue dans le texte européen pour pouvoir, du coup, soit se retarder l'entrée en vigueur, soit.
On verra. C'est vrai que 2035, c'est loin. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de voir qu'il y a déjà eu des leviers réglementaires. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple bête? Même des choses dont on n'a même plus conscience. Je suis pratiquement certain qu'aujourd'hui, des ampoules à filaments sont interdites à la vente parce qu'elles sont extrêmement inefficaces. Elles coûteraient un peu moins cher à l'achat. Pour le consommateur s'y retrouve en fait parce que sur la durée de vie de l'ampoule, en fait, il fait des économies vu qu'elle consomme beaucoup moins. Mais vu que c'était moins cher à l'achat, il continue à y avoir des achats résiduels de ces ampoules qui sont très inefficaces. Du coup, on les a juste interdits et c'est réglé. Et ça a fait comme l'interdiction des sacs plastiques dans les centres commerciaux, quoi. Enfin, tout le monde râle au début et puis après, on oublie, quoi. C'est absolument indolore, quoi. Donc ça permet, ouais, faut se rendre compte, je pense, que ces leviers politiques sont extrêmement efficaces. Simgasa nous dit facteur de désespoir, hausse des inégalités et politique antisociale empêchant de mettre en place des politiques environnementales, taxes carbone, ZFE, etc.
Mais sur la taxe carbone, justement, ça c'est quand même un de mes facteurs d'espoir, et on en a parlé hein, du coup dans une vidéo, mais c'est le fait que quoi qu'en fassent les États membres de l'Union européenne, il y a une réforme qui est la réforme ETS2 qui est passée de ce marché du carbone. Alors, c'est pas très lisible, c'est pas très clair, mais c'est comme ça que l'Union européenne fonctionne et qui va entrer en vigueur en 2027 et qui va avoir une couverture beaucoup plus large sur l'ensemble des biens et des services qui sont couverts et qui va être du coup beaucoup plus efficace pour en tout cas intégrer le coût environnemental des énergies fossiles dans nos consommations. Toute la question, ce sera est-ce qu'on arrive à redistribuer suffisamment pour diminuer l'impact social et du coup augmenter la légitimité de cette mesure et éviter évidemment que ce soit la grogne bien justifiée ou bien compréhensible d'ailleurs. Hein, mais donc ça, c'est ma crainte. Mais en tout cas, j'ai de l'espoir sur le fait que cette mesure ait été votée. Et on va voir, enfin, on va voir et on va faire en sorte que la façon dont c'est mis en application soit évidemment, ne crée pas d'injustice ou ne crée pas de précarité énergétique.
Et vu ton excellente vidéo de l'an dernier sur les milliardaires, je suppose que tu partages aussi le facteur de désespoir sur les inégalités
Ben,
et
oui, sur les
certains individus
inégalités.
qui ont un pouvoir économique trop important.
Bien sûr, sur le poids des milliardaires, enfin, je veux dire, le rôle d'une personne comme Elon Musk, qui se retrouve maintenant. Alors, on ne sait pas trop si c'est un marionnettiste ou bien si c'est lui la marionnette, on verra, de l'administration Trump, mais en tout cas, il a un rôle absolument central, alors que il a jusqu'ici joué un rôle très nocif sur le débat public depuis sa reprise de Exeter, etc., etc. Et voilà, qui propage régulièrement des positions conspirationnistes, dégueulasses. Et donc, ouais, j'attends le moment où il y aura un retour de karma et que. voilà, c'est mon espoir qu'il ne sera pas toujours à l'apogée de sa gloire. J'espère aussi plus activement qu'un jour on fera quelque chose pour lutter contre l'influence complètement démesurée des milliardaires ou des multimillionnaires sur nos systèmes démocratiques. Enfin, à un moment, ça va devenir risible. C'est déjà risible, mais enfin, ça va devenir un peu gros là. Hein.
Donc allez voir la vidéo de Philoxime sur les milliardaires qui est vraiment excellente. Le travail des collègues d'Osons Causer aussi en parallèle. Et d'ailleurs, il me
Merci.
semble que sur la vidéo des milliardaires, où tu as beaucoup d'arguments hein, sur le fait qu'un milliardaire est une faillite politique, quelque part, l'existence d'un milliardaire, je crois même pas que tu parles d'écologie, si? Il n'y a même pas besoin de ça.
Ouais, non, mais je le mentionne, mais ouais, il n'y a pas que ça, quoi.
Les plus gros arguments sont politiques, démocratiques, en fait.
Oui, mais parce que voilà, on aura besoin aussi des leviers démocratiques tenter de résoudre les périls écologiques. Mais sur les milliardaires, justement, un facteur d'espoir, c'était quelque chose que j'ai vu, je pense, c'était hier, vraiment très récemment dans la presse. Alors c'est une sombre histoire dans la succession de ce cher Rupert Murdoch, hein, qui donc est un milliardaire britannique qui est à la tête du groupe qui inclut notamment News Corp, Fox News, etc., énormément de journaux conservateurs, voire d'extrême droite, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc apparemment, il y a un conflit qui est, c'est très drôle, le truc, c'est les enfants qui se sont inspirés de, je sais pas si tu as vu la série Succession. Donc il y a eu une série HBO inspirée de la famille Murdoch, en fait, hein, et inspirée exactement de ce truc d'un milliardaire qui a eu, je sais pas combien d'épouses et plein d'enfants, et la question se pose de comment, qui va hériter de l'empire. Économique de ce milliardaire, etc. Et bref, à un moment, il y a un enjeu qui se pose sur le contrôle que les enfants pourront avoir sur la compagnie. Et c'est apparemment, donc, qui passe par un trust, etc. Et apparemment, c'est en voyant la série que les enfants ont eu l'idée d'intenter un procès qui a conduit à du coup remettre en cause les plans que ce cher Rupert Murdoch avait fait pour assurer que son empire tomberait uniquement dans les mains de un de ses fils qui est le plus aligné politiquement avec ses idées d'extrême droite, disons. Et donc voilà, du coup le juge a apparemment créé un truc qui ferait que pour le moment si Rupert Murdoch devait mourir, il ne faut pas souhaiter la mort des gens, mais devait mourir très rapidement. Ouais, les enfants, il risque pas d'y avoir un contrôle unifié de l'empire médiatique et ça risque d'être un petit peu la zizanie, ce qui, vu l'impact de l'empire Murdoch, de nouveau l'impact très négatif sur notre démocratie, je pense que c'est quelque chose quand même qu'on peut espérer. Donc voilà, moi quand on peut. Quand c'est pas le beau fixe dans la famille Murdoch, je suis plutôt content.
Alors, Galvis93, facteur de désespoir, l'augmentation du budget de l'armée. Et on pourrait parler des conflits en cours aussi. Je pense qu'on rejoint ça. John Zoidberg nous dit, c'est des résultats comme ça qui me donnent espoir et renvoie vers un lien. 10 ans de combat, 162 victoires, la puissance des luttes locales. Bah, ça paraît très bien aussi. Et Fabchès dit, moi, c'est pas les problématiques climat et autres qui me dépriment, c'est vraiment la tendance post-vérité qui m'inquiète. Ils mangent des chats et des chiens à la télé. Enfin, ils mangent des chats et des chiens, je l'ai vu à la télé. La dernière partie est terrifiante. Ouais, bah là je rejoins. Hein. Moi, c'est mon facteur de désespoir principal, notamment vis-à-vis de mon activité. Hein, parce que quand on met beaucoup de temps à faire peu de vidéos qui font pas beaucoup de vues et qu'un Thinkerview vous déglingue, enfin, raconte n'importe quoi sur le sujet que vous couvrez, c'est vrai que ça fait se poser quelques questions. Et plus globalement, bah, on en a parlé, hein, les questions des algorithmes et d'avoir des discussions et même. De réussir à se mettre d'accord en société sur ce qui est un fait, quoi. Et si on n'arrive plus à faire ça, on peut rien faire de plus, je pense. Je pense que c'est vraiment la nécessité première. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qui est vrai, politiquement, on devient très vite impuissant, quoi.
Après, sur ces trucs-là, j'ai pas de réponse finale, mais il y a eu des périodes de l'histoire aussi où la propagande était très importante dans le débat public et aussi où on était plus tout à fait au clair sur la vérité de tel ou tel. Tel élément, etc. C'est possible aussi que c'est. Alors, on a la difficulté des algorithmes de recommandation, des réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas impossible qu'on arrive à réinsuffler un certain sens de la recherche de la vérité, etc., dans le débat public. Ou de... Ça passe aussi par des institutions, hein. Les institutions journalistiques, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, on a de bonnes raisons de critiquer nos médias qui sont insatisfaisants aujourd'hui, etc., etc. Mais l'idée d'avoir des gens qui sont payés pour enquêter ou pour chercher à rapporter la manière la plus objective, la plus avec une recherche de la vérité, etc., avec une éthique importante, une déontologie. Enfin, avoir des journalistes, c'est hyper important pour un débat public. Et il y a un bête problème, mais on ne sait pas comment les financer à l'ère
Ouais.
d'Internet. Il y a ce genre de truc, quoi.
Et
Mais c'est pas exclu qu'on arrive à résoudre ces problèmes.
ça rejoint la question de la postvérité, qui est aussi une forme de défiance généralisée de certaines personnes envers tout, y compris envers les médias. Et à ce moment-là, c'est si on se méfie de tout, bah on croit n'importe qui. C'est un peu le problème.
Oui, c'est
Singhasa nous
ça.
dit. Facteur d'espoir, peu orthodoxe, je pense, la Chine qui pousse fort sur les technologies bas carbone, dans une guerre économique, les autres pays vont être obligés d'aller à fond dedans aussi. CF, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, ce qui va accélérer le déploiement. Donc là, ouais, tu en avais parlé un peu dans ta vidéo, d'ailleurs, dans les facteurs d'espoir de ces questions technologiques. Donc là aussi, on rejoint. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, la bière est partie. Mais il a mis en avant Tournesol App comme facteur d'espoir. On en a déjà parlé plusieurs fois ici, donc vous connaissez probablement. Je parcours le chat. J'aime pas l'espoir, ça ne se mange pas, nous dit Fantagos 21.
Vision un peu gloutonne. Twitter a perdu 80% de sa valeur. Je ne sais pas si c'est.
Fabchès demande est-ce que c'était sympa les époques de grosses désinformations, etc. que tu as évoqué.
Non, non, pas toujours. C'est
Et est-ce
souvent.
qu'il y a eu d'autres époques, est-ce qu'il y a eu à d'autres époques une forme de post-vérité et comment on est sorti? Bah, est-ce que c'était pareil que maintenant? Je sais pas, mais il y avait des époques de propagande très forte où le message
Oui.
majoritaire était faux, quoi.
En fait, de ce que j'avais lu, on a eu des périodes, mais est-ce que c'était proche des guerres mondiales, etc., où en fait la presse était extrêmement partisane. Et du coup, tu avais vraiment deux ou trois vérités différentes selon le camp auquel tu appartenais, selon le. Et donc, on n'imagine pas à quel point les critiques qu'on peut faire à la presse aujourd'hui, etc., à quel point à certaines époques, il y avait vraiment des vérités diamétralement opposées qui coexistaient dans l'espace public. Et on est parvenu à revenir à un certain consensus. Un débat public plus apaisé sur les faits, et voilà, peut-être que aujourd'hui aussi on est dans une époque où on est dans une époque d'instabilité, hein, je crois qu'on peut le dire là maintenant. On est dans une époque où les conflits armés sont quand même plus présents, et il y a la post-vérité, mais il y a aussi simplement de la propagande politique, quoi. Ça, ces trucs-là, on a déjà connu. Enfin, on sait que la Russie, notamment, essaye de miner le débat public dans nos pays pour foutre le dawa, pour affaiblir nos démocraties. Donc, si on arrive, et de nouveau, pour moi, c'est important d'arriver à comprendre les causes de la crise de l'information. Si on arrive à isoler les différentes causes des maux qui affectent notre régime informationnel, je suis persuadé que on pourra trouver des moyens d'en sortir, quoi. De sortir en tout cas de ce bullshit qui paraît généralisé, etc. Et qui paraît. Enfin, de nouveau, je reviens un peu sur le. C'est aussi parce qu'on comprend mal, et moi-même, hein, je prétendrai pas du tout avoir l'information de cette histoire, mais qu'on prétend mal, on comprend mal le pourquoi de l'état déplorable de notre débat public, qu'on est un peu. Qu'on a l'impression d'être impuissant.
Et ouais, alors Louis Pouzin, il a fait un commentaire intéressant. Il disait le cheminement des citoyens pendant la Convention citoyenne pour le climat. m'a fait pleurer de joie personnellement. C'est aussi un facteur d'espoir de voir que finalement ça montre quand même un truc important, ça montre qu'une forme de convergence politique est possible quoi. Quand on se donne enfin ils ont eu la formation pour, mais non, c'est enfin
Ouais.
nous on a fait des vidéos là-dessus, donc on est assez convaincus aussi par cette initiative, même si c'était dommage que Monsieur Macron n'en ait pas fait grand-chose. Mais l'initiative
J'espérais qu'il n'y ait pas trop
démocratiquement
l'humanité.
et écologiquement était très intéressante.
Oui, c'est un. Il y a d'autres exemples aussi d'assemblées citoyennes qui semblent effectivement qui sont très encourageantes pour l'idéal démocratique. Et ça montre aussi que, il faut le rappeler, quoi, la démocratie, ça ne doit pas se résumer à voter tous les 5 ans, etc. Ça ne doit pas se résumer à la démocratie représentative et qu'il faut être plus ambitieux dans la recherche de l'idéal démocratique, quoi. On peut être désespéré par certains résultats électoraux, comme l'élection de Trump, etc. Mais il faut se dire que c'est aussi potentiellement, ça montre les effets complètement pervers d'un système représentatif où la démocratie se contente d'être de voter pour son camp. Alors en plus, il n'y a que deux camps hein, dans un système comme le système américain. Et ouais, il y a des milliers de raisons pour lesquelles ça peut mal tourner, quoi. Alors, au contraire, ça doit être une raison d'approfondir l'idéal démocratique et d'une manière qui soit pas simplement, voilà, qui soit subtile, comme ces idées d'assemblée tirage au sort, etc.
Et du coup, Louis Pouzin te demande si tu as fait ou si tu vas faire une vidéo sur la démocratie liquide.
Sur la démocratie, oui, j'en ai quelques-unes. J'ai une idée de vidéo, toujours un peu dans mon truc sur après mes quelques vidéos sur l'extrême droite. L'idée de titre que j'aurais, c'est quelque chose comme Marine Le Pen n'a rien compris à la démocratie ou un truc comme ça. Pour en fait. Ouais, arriver un peu à critiquer une certaine idée hyper naïve qu'on a de la démocratie,
Qui serait dû au vote.
qui serait due au vote ou qui serait due à un peu, pour moi, à l'histoire un peu naïve qu'on nous raconte sur le régime démocratique à l'école
Ouais.
où en fait on nous présente une version très 18e, 19e siècle de la démocratie qui se limite effectivement au vote et qui se limite à la règle majoritaire. Hein, donc c'est le principe de la majorité l'emporte sur la minorité, et puis voilà. Et en fait, entre-temps, nos régimes démocratiques ont quand même sacrément évolué avec le constitutionnalisme, avec l'état de droit, etc. Et c'est pas du tout intégré dans le récit qu'on nous apprend à l'école, et il faudrait arriver à trouver des façons de raconter ce régime démocratique très imparfait qu'on a aujourd'hui. Pour arriver à l'expliquer et puis surtout approfondir ce régime quoi. Donc voilà.
Très bien, on va se rapprocher de la fin. Est-ce que dans le chat il y en a qui ont des idées pour un raid là? Parce que je connais pas trop qui fait quoi à cette heure-là. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sinon, ça sera au hasard. Je crois que j'ai récupéré à peu près tout le chat. Moi, j'ai pas donné mes facteurs d'espoir.
C'est vrai ça?
Je pense que dans les faits. Enfin. Moi, je continue à penser qu'on n'en fait pas assez sur les questions environnementales et qu'on n'a pas vraiment commencé à mettre en place une action. Et pour autant, il y a des actions qui sont déjà là et qui montrent une efficacité relative, tu vois, même si c'est que des trucs d'amélioration technologique, voire même d'efficacité incrémentale. Et je pense que dans les trucs qui sont pas très connus, il y a quand même le fait que si vous regardez les émissions de gaz à effet de serre par habitant, le maximum dans la majorité des pays développés européens, il a été passé dans les années 70, quoi. Moi, mes grands-parents, ils émettaient plus de gaz à effet de serre que moi, à mon âge. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas assez connu. Et ça permet de se rendre compte qu'il y a des marges d'amélioration, il y a des choses qui se passent, même quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Alors, si on continue sur les tendances actuelles, on n'y est pas, hein. Il faut accélérer les choses. Mais on ne peut pas non plus rester dans une posture de désespoir, hein, qui est que, y a rien qui se passe, on fait rien, ça sert à rien, etc. Et donc, je pense que je mettrai en avant ces choses-là, ce que tu as fait un peu en montrant certaines technologies aussi. Et montrer enfin, des choses aussi bêtes de choc pétrolier, on met en place des limites de vitesse sur l'autoroute, ça c'est des évolutions comportementales pour réduire la consommation de carburant, parce que quand vous montez en vitesse, elle augmente quand même significativement. Et ce qu'on a fait sur l'isolation des bâtiments, les premières normes, ça remonte aussi de ces années-là. Et en fait, montrer l'efficacité de ce type de levier politique qui existe pour une partie depuis longtemps, je pense que c'est quand même un facteur d'espoir. Et ça permet de sortir d'une idée qui serait qu'on va évoluer à force de morale, de culture et d'évolution de comportement individuel qui se heurte vite à la réalité du monde, quoi. Parce que quand tu as cette vision du monde et que tu essaies de convaincre ton voisin de ne pas acheter un deuxième SUV et qu'il le fait quand même, tu te dis ben, on s'en sortira jamais, quoi. Alors que si tu te dis une fois qu'on est suffisamment nombreux, on peut mettre en place des politiques qui convainc la majorité, qui mettent des contraintes qui rendent ce type de comportement impossible, ben c'est réglé, quoi. Et ça paraît en fait plus abordable. Et ça m'arrive d'avoir des discussions avec des personnes qui imaginent que c'est plus facile de convaincre tout le monde. Alors que moi, je pense que c'est plus facile de mettre en place ce type d'évolution politique. Évidemment, hein, ça demande d'avoir une certaine masse critique, hein, je ne vais pas le faire tout seul. Et heureusement, parce qu'il y a plein de gens qui veulent des évolutions qui politiquement ne me conviennent pas. Mais je
Mais
pense, ouais, dans les facteurs d'espoir, il y a ce type d'évolution qu'on a déjà constaté, qui permettent de aussi de montrer certains leviers d'action actionnables, quoi.
Je crois que c'est un bon réflexe aussi quand on si on cherche des facteurs d'espoir, c'est de se retourner vers le passé et de regarder le chemin parcouru dans certains domaines. Et si on garde enfin, depuis 10, 20 ans, etc., ne serait-ce que le statut de la question écologique, climatique, dans le débat public, etc. Enfin,
C'est
on
vrai.
ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, quoi. Et donc, se retourner pour voir ce qu'on a fait, même si on a raison, l'impression que ce n'est pas suffisant, etc., etc., ça permet voilà, voir les blagues sur les écolos amateurs de petits osios dans les années 90, etc., et le statut vraiment complètement subalterne de ce genre d'enjeu, qui était un espèce d'enjeu de niche. Et voir qu'aujourd'hui, il est quand même assez central, même si c'est contesté, qu'il y a une vague actuellement un peu pour essayer d'en mettre en cause le truc. Mais malgré tout, enfin, il y a énormément de chemin qui a été parcouru, il y a énormément de gens qui sont convaincus que c'est un enjeu central et qui agissent dans plein de domaines de la société pour essayer de, voilà, de le maintenir et de l'approfondir.
Ouais, bah je te rejoins complètement, complètement là-dessus. On m'a pas donné de nom de proposition. FabChess nous dit c'est clair qui parlait de véganisme végétarien il y a 20 ans. Je sais pas si tu veux regarder un peu le chat, je vais essayer de trouver. Ou sinon je vous envoie.
Ah oui, tu cherches toujours où faire ton raid?
Ouais, c'est pas facile, hein. Je vais vous envoyer sur France Info, tiens. Je vais vous envoyer
C'est
sur.
dur là, hein, la vie de Future.
Ouais. Bah, c'est pas, c'est qu'un tout petit bout de ma vie pour le coup, mais. Franchement, si vous me trouvez pas de. Ah, Dave Duff. France Info. Allez, s'il y en a qui sont chauds pour France Info. J'y suis passé une fois, donc. Ok, alors est-ce que tu veux un peu, un mot de la fin peut-être, on va dire tranquillement.
J'ai pas prévu de mot de la
Bon,
fin, mais
je sais pas si tu voulais
oui,
rajouter des choses. On nous dit bonne soirée, merci pour le live.
merci,
Difficile ce
merci à
soir.
vous.
En tout cas,
Bah
tes
oui,
vidéos étaient
bon,
très
voilà.
cool. J'espère que ça participera à donner un peu plus d'espoir et comme ça on aura un peu plus de gens qui agissent. Merci au chat pour les questions.
Bah ouais, merci de l'invitation.
Bah, merci d'être venu 2 heures. J'espère que ça ne t'a pas trop fatigué.
Pas du tout, pas du tout.
Et voilà, normalement la rediff sera postée demain, si tu en as l'utilité. Et je vais vous envoyer sur France Info. Donc ils vont pouvoir
On
partir.
raid France Info là.
Ouais,
Très
ouais,
bien. Pour leur
Donc bonne
rappeler
soirée à
l'importance du
tous.
journalisme.
Il n'y aura pas de live avant janvier. Et en janvier, vous aurez des vidéos, donc il y aura au moins des lives post-publication. Je ne vous dis pas encore sur
Oh.
quoi, mais si vous traînez sur le
Oh.
Discord, vous avez les indices. Vous
Moi je
pouvez
suis.
toujours rejoindre le Discord. Et voilà, donc bonne fête de fin d'année à tout le monde. Hein. Et on se retrouve l'année prochaine sur Twitch de temps en temps. Allez, salut!
Salut tout le monde!